Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Elon Musk a enfin vraiment pour de bon cette fois-ci racheté Twitter. On va vous aider à comprendre les enjeux de ce changement massif. On a aussi les résultats des GAFAM pour ce trimestre et pour certains cette année. Et tout plein d'autres choses comme les informations médicales gérées plus ou moins sur YouTube et TikTok. Et plein d'autres suites dans l'actu tech. C'est parti dans le rendez-vous tech. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech. Nous sommes en octobre, non, même plus en novembre 2022 et c'est l'épisode numéro 484. C'est un jour férié, 1er novembre, et du coup, les vaillants, les vrais, les héros sont là pour m'accompagner dans cet épisode qui va être, je crois, un petit peu intense, j'allais dire agité, animé, peut-être aussi, mais en tout cas intense, parce qu'on a des infos importantes à traiter, et moi j'ai la pression pour pas qu'on dise trop de bêtises, et heureusement, moi, vous savez que je dirais peut-être beaucoup de bêtises, mais on a des journalistes sérieux, et extrêmement rigoureux qui sont là avec nous pour prêter un tout petit peu d'air de respectabilité à l'émission. En premier lieu, Kassim Ketfi. Bonjour Kassim, comment vas-tu ? Tu es chez toi tranquille pour le jour férié et tu te dis plutôt que de te reposer, tu vas venir dans le rendez-vous tech. Qu'est-ce qui t'a pris ?
Exactement. C'est j'avais une passion, là j'avais envie de parler de vraiment, en plus c'est des sujets passionnants et tu as envie de passer ton jour férié à discuter vraiment.
Musk et de la modération.
Elon Musk, exactement.
Bah, très bien, merci beaucoup à toi Kassim d'être avec nous. Et d'un autre côté, on a également une personne qui est en jour férié, en repos, mais qui en plus a passé une très mauvaise nuit avec des jeunes qui faisaient du bruit dans les appartements à côté de l'immeuble.
Il n'y avait pas de modération.
Oui, mais voilà, que fait Elon Musk ? Chloé Wattier est avec nous. Chloé Wattier du Figaro, évidemment. Salut, comment ça va ?
Bah écoute, ça va malgré ma nuit à peu près inexistante. je ne vais pas te cacher que je suis en pyjama actuellement. Et puis tout à l'heure, il faudra quand même que je m'habille parce que je vais à la soirée Paris Games Week. Alors je ne sais pas dire que je fasse la... pas dit que je fasse la fermeture, hein. mais ouais, une soirée un peu difficile avec des voisins qui ont fait la fête, qui n'ont techniquement toujours pas fini, je crois, j'ai l'impression.
Mais ils sont incroyables, les jeunes aujourd'hui, franchement. Tu me disais tout à l'heure, là on enregistre à midi, ils y sont depuis hier soir. Moi, mais bon, j'ai eu une jeunesse quand même un petit peu agitée, mais à cette heure-ci, fin, c'est affalé dans le canapé, à la limite, en prenant les restes de la soirée de la veille, mais t'es plus en train de faire la fête et de danser, quand même.
Alors là, ils dansent pas, en tout cas, j'ai pas l'impression, mais je pensais qu'ils dormiraient au bout d'un moment, mais non.
Bah oui.
Non. C'est pas une option, visiblement.
C'est l'influence de TikTok, ça. Je le sais bien, ils ne s'arrêtent plus. Incroyable. Bon, merci en tout cas d'être avec nous en pyjama. Et c'est ça, les nouveaux médias et les avantages du télétravail et des gens qui sont sérieux dans le fond, mais pas forcément dans la forme. Moi, je suis obligé de m'habiller parce que maintenant, on fait les lives comme tous les mardis midi pour le rendez-vous tech sur Twitch. Mais vous voyez que le haut, ça se trouve, en bas, je suis en caleçon, hein, vous ne savez pas. Donc voilà, c'est ça, les médias d'aujourd'hui. pour cet épisode, eh bien, sachez qu'il est possible, avec toutes ces divagations, grâce aux Patriotes. Et je suis sûr qu'ils seront fiers de soutenir cet épisode. On a Mathieu Barali et Raphaël qui ont rejoint le Patreon. Merci à vous deux de devenir Patriotes et de rejoindre la grande famille. Et les producteurs de l'épisode, Rémi X et Derek Herbe. Alors, à la grande loterie des sujets des épisodes, ils sont tombés sur celui où, enfin, pour de vrai, on a Elon Musk qui a racheté Twitter et donc on va pouvoir vraiment en parler. Et bon, Rémi et Derek, c'est sur vous que ça tombe. Merci d'être les producteurs de cet épisode spécifique et merci à tous les patriotes de soutenir l'émission. Je vous propose qu'on cesse nos divagations et qu'on commence à discuter tout de suite des grosses infos de la semaine. La première, évidemment, le rachat d'Elon Musk, enfin le rachat de Twitter par
Elon Musk. Il s'est racheté.
Il s'est racheté. Écoutez, il a tellement d'argent, je crois qu'il pourrait. C'est le plus gros rachat du monde de la tech de l'histoire. Alors, le rachat privé, ça ne veut pas dire que c'est le plus gros rachat de société qui soit, mais le plus gros rachat, à ce que je comprends, du monde de la tech. Et depuis des mois et des mois, à chaque fois qu'il y a Elon Musk qui vient dans les sujets du rendez-vous tech, je vous dis « Oh, j'en ai marre, je ne veux pas parler d'Elon Musk ». Là, ce n'est pas le cas parce que c'est du concret. Ce n'est pas des « peut-être », des « il fait le troll sur Twitter », même si c'est encore le cas pour d'autres raisons. Là, c'est vrai. Et c'est un rachat extrêmement, extrêmement important. On va essayer de faire de notre mieux pour vous expliquer pourquoi ce sont des enjeux aussi forts. Et pourquoi ça provoque des réactions aussi importantes dans le monde de la tech et autour. Mais c'est une affaire qui est évidemment extrêmement complexe. On va essayer de toucher à peu près tout, mais ça va continuer à se développer sur les semaines et les mois à venir. Là, en tout cas, ce qu'on va essayer de faire, c'est de vous expliquer pourquoi c'est aussi discuté et pourquoi tout le monde... Dans le monde de la tech, peut-être que ça a moins de répercussions dans le monde réel, mais pourquoi tout le monde prend tellement à cœur cette opération financière, finalement, une boîte qui passe dans les mains d'un milliardaire, ça arrive tous les jours. Je vais vous faire un petit résumé de certains éléments, et puis on va en discuter ensemble. Pour moi, il y a trois choses à prendre en compte. Il y a d'une part la question de la modération, parce que sur Twitter, la question de la modération est toujours extrêmement importante. Et le personnage d'Elon Musk et sa vision, d'une part politique, parce que Twitter est une plateforme extrêmement politique, politique et sociale, et donc sa vision politique a forcément une influence sur cette analyse-là. Ensuite, il y a la santé de la boîte elle-même. La santé de la boîte est peut-être compliquée à évaluer, mais Elon Musk est un petit peu en train de nettoyer la maison et il est en train de virer plein de gens. Il a commencé avec l'équipe dirigeante et il continue avec une bonne partie des employés. Bon, ça aussi, on va en discuter dans une seconde. Et puis, le dernier élément, c'est un élément évidemment extrêmement important, qui est celui de ce que va devenir Twitter. Ou en tout cas, on va parler dans la première partie de la question de la modération, mais dans les fonctionnalités. Et peut-être que Elon Musk a des projets très concrets, parce que avec ce rachat, donc Twitter est maintenant une société privée, elle n'est plus cotée en bourse, mais elle a quand même besoin de faire de l'argent, elle a des dettes. Avec le rachat, il y a énormément de dettes qui ont été ajoutées à la boîte, et donc ça va avoir des impératifs, ça va imposer des impératifs à Musk et à la manière dont il gère la société. La première chose qui est sans doute la plus importante, c'est donc cette question de la modération. Et je disais, certaines personnes ne comprennent pas pourquoi on en parle tellement et pourquoi c'est si important. Twitter, c'est pas juste un réseau comme les autres. C'est un réseau qui a moins d'utilisateurs que les autres, mais qui est repris dans tous les médias. Et de fait, Twitter est une sorte de porte-voix pour toutes les personnalités, qu'elles soient politiques ou autres, pour communiquer avec le monde. Et c'est un réseau qui est différent des autres réseaux sociaux, parce que Facebook, c'est des interactions interpersonnelles. Évidemment, il y a des choses qui peuvent influencer la manière dont on pense, mais c'est beaucoup plus interpersonnel, c'est plusieurs à plusieurs. Le fonctionnement de Instagram ou même TikTok, c'est là encore de foule à foule. Twitter, c'est un organe de communication presque officiel, qu'on utilise en tout cas quand on veut dire des choses au monde. Et ensuite, c'est repris dans tous les médias. Donc, même si la taille de Twitter est faible, eh bien, la portée de Twitter est immense et sans commune mesure avec aucun autre, non seulement média sur Internet, mais média tout court. Vraiment tout court. Il n'y a aucun autre média, qui soit social ou traditionnel, qui a autant de portée que Twitter. Ça ne veut pas dire qu'il a 90% de portée, mais ça veut dire qu'il a une plus grosse portée que tous les autres médias qui existent. Et donc, son importance est vraiment incalculable. Et la manière dont Elon Musk se comporte, de manière assez infantile, même trollesque, nous fait nous poser des questions sur la manière dont il va gérer Twitter. Et en plus de ça, ses tendances politiques et évidemment, on ne peut pas ne pas en parler, ces tendances politiques sont également un petit peu préoccupantes, et un petit peu, je pèse mes mots. Pour vous donner juste un exemple, on va peut-être en parler plus tard, je vais rester dans les généralités maintenant. La chose que je dirais, avant de passer la parole à mes camarades, c'est si vous voulez lire un seul article sur ce sujet, je vous recommande très, très, très chaudement l'article de Nilay Patel, qui sera dans la newsletter, d'ailleurs, vous pouvez vous abonner à la newsletter sur notepatrick.com. Il sera dans la newsletter et c'est un article qui explique en quoi Elon Musk a « fucked up real good ». Il a vraiment fait une connerie. Pourquoi ? Parce que Twitter étant aussi important que ça, et la modération dans les réseaux sociaux et dans la société étant un problème qui a énormément gagné en importance ces dernières années, tous les yeux vont être rivés sur Elon Musk, qui est devenu le visage de la modération. Et il dit « Twitter n'est pas un produit tech, Twitter n'est pas un produit d'ingénieur, la fonctionnalité qu'on vend chez Twitter, c'est la modération ». Et du coup, je vais vous lire juste quelques extraits de ce qu'il dit, en traduction instantanée, peut-être un petit peu approximative, mais il dit « Tu es maintenant le roi de Twitter et les gens vont penser à toi personnellement comme étant responsable de tout ce qui se passe sur Twitter maintenant. Dès qu'il y aura une merde, et Dieu sait qu'il y en a des merdes sur Twitter, eh ben ça sera Elon Musk qui est responsable. » L'autre chose qu'il dit, c'est que la plupart des gens ne veulent pas participer à un espace internet plein de racistes et de « not all men fedora bullies », que j'aime beaucoup cette formule, en gros, des racistes et des sexistes. Donc, il va falloir que tu sois extrêmement sérieux sur la modération, parce que si tu veux pas que Twitter devienne un puissant fond pour perdre de l'argent en le transformant en ce que sont Parler, Truth Social, etc., eh ben, il va falloir que tu modères bien. Tu peux pas juste laisser les choses sans modération. Et donc, comme je le disais, tous les réseaux sociaux essayent d'incentiviser les choses bien, de désincentiviser les choses pas bien et d'effacer les choses vraiment terribles. Et on a eu une illustration de ça par le compte d'Elon Musk ce week-end, quand il a répondu à Hillary Clinton. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette tentative d'assassinat sur la personne de Nancy Pelosi. Qui est la chef...
Directrice de l'Assemblée...
chef du parti, démocrate, à l'Assemblée nationale américaine. Un assassin, une personne s'est introduite chez elle dans le but de l'assassiner dans sa maison. Elle n'était pas là, son mari était là, et il s'est fait attaquer avec un marteau. Il était à l'hôpital, enfin, il a pris un coup de marteau sur la tête. C'était quelque chose de... Je ne comprends pas que ça ne soit pas en première page de tous les médias du monde, hein, cette histoire. C'est une tentative d'assassinat sur la personne qui est à la tête du Parlement américain.
La numéro 3 dans ou numéro 4 dans l'ordre...
Dans l'ordre de succession au président, donc la vice-présidente, et elle ensuite. Et il y a quelqu'un qui allait chez elle pour essayer de l'assassiner. Évidemment, c'était un partisan de l'extrême droite américaine. On pourrait dire les républicains, tout simplement. Enfin, c'est hallucinant, cette histoire. Hillary Clinton tweet sur le sujet. Elon Musk lui répond avec un article complètement ridicule, d'un média complètement ridicule qui prétend, une de ses méthodes de désinformation, c'est d'envoyer des idées absurdes et d'en diffuser autant que possible pour noyer, pour créer du chaos. Et il répond « il semble qu'il y ait un peu plus dans cette histoire qu'on ne comprenne pas ». Et cet article prétend qu'il était dans un bar gay, qu'il était sous, et que le mari donc de Nancy Pelosi. Mais aucun sens. Et Elon Musk, qui est maintenant... Ça serait une histoire sans intérêt si ce n'était pas Elon Musk et qu'il n'était pas le CEO de Twitter. Mais il a répondu à Hillary Clinton cette histoire. Donc, ça en dit long sur son affiliation politique et sur la manière dont il voit, la modération. Il l'a effacé depuis. Il s'est peut-être rendu compte, ou ses avocats l'ont rappelé à l'ordre. Bref, c'est une longue explication, c'est vraiment la partie importante de toute l'affaire, mais je vous laisse la parole maintenant. Chloé, Kassim, peut-être Chloé, je te laisse nous dire ce que tu en penses.
Alors, il y a peut-être un point qui est important à comprendre, que nous, côté Europe, on ne saisit peut-être pas forcément sur toute cette histoire autour de Twitter. C'est qu'aux États-Unis, toutes les questions autour de la liberté d'expression sont extrêmement politisées. Alors, chez nous, on entend le « on ne peut plus rien dire ». Le « on ne peut plus rien dire » aux États-Unis, il est beaucoup, beaucoup plus fort. Et en fait, c'est devenu une sorte de cri de ralliement de la droite américaine. Qui estime que, que les réseaux sociaux censurent trop les opinions conservatrices et que la modération est trop forte. Et pourquoi est-ce que la modération est trop forte ? Parce qu'aux États-Unis, ils ont ce qu'ils appellent donc la liberté d'expression qui est consacrée dans la Constitution américaine et qui fait qu'à peu près toutes les opinions peuvent être dites. Et que des choses qui, en Europe et en France, sont illégales, ne le sont techniquement pas aux États-Unis. Donc aux États-Unis, vous pouvez dire les pires horreurs. Ça passe parce que c'est de la liberté d'expression. Alors que
c'est-à-dire que
c'est pas
illégal,
possible.
Donc ça serait pas condamné par la justice, mais c'est
exactement.
À chaque société, en l'occurrence les
réseaux
sociaux.
J'y viens. Du coup, c'est donc ça, c'est le cadre juridique américain. C'est grosso modo, on peut tout dire sauf 2-3 exceptions, mais c'est quand même le cadre est beaucoup plus large qu'en France, par exemple. Mais ensuite, dans ce cadre-là, c'est aux entreprises et notamment aux réseaux sociaux de fixer leurs règles du jeu pour dire « bah ok, les opinions, les opinions racistes, techniquement dans la rue, rien ne vous empêche de sortir avec un gun et de dire des choses horribles sur des minorités. Mais par contre, sur notre espace à nous, on estime que vous n'avez pas le droit. Et donc, on va suspendre votre compte, on va supprimer vos tweets. » Et donc, c'est ce sur quoi la droite américaine en a fait une sorte de... d'un cheval de bataille. Et Elon Musk, en fait, est arrivé là-dessus. En disant, c'est là-dessus qu'il s'est présenté en arrivant sur Twitter, en disant, moi, Twitter, je veux en refaire un bastion de la liberté d'expression, où tout pourrait être dit, et où on arrêtera avec cette modération complètement folle qu'on voit actuellement, qui est, donc là, on rajoute la couche, tenue par des gauchistes de la Silicon Valley, qui sont complètement biaisés idéologiquement, etc., etc., etc.
Il faut préciser... Je veux juste préciser que cette idée de la modération est vraiment extrêmement biaisée, parce que de nombreuses études ont montré que ce qui était modéré effectivement plus à droite, c'était pas une question d'orientation politique, mais une question de teneur des propos. Et il se trouve que c'est comme l'histoire des mails de campagne que Gmail classe dans les spams, on en parlait ces dernières semaines, la teneur des propos sont problématiques. Ensuite, si la gauche disait des choses comme ça, et vraiment aux États-Unis, la droite et la gauche sont incroyablement polarisées, mais si la gauche tenait des propos comme ça, a priori, les filtres et les décisions de modération seraient les mêmes. Sauf qu'il se trouve que à droite, et on le comprend avec le comportement de l'ancien président Donald Trump, qui est quand même quelqu'un qui a tenté de faire un coup d'État. On était à un demi-doigt d'un coup d'État, et il y a eu un assaut sur le Capitole, enfin, on le sait tout ça. Et c'est ce type d'environnement. C'est pas juste, parce que je crois qu'on a tendance à un petit peu minimiser la chose et à dire ah ben la droite estime être un petit peu plus, enfin être plus censurée, et on se dit ah ben peut-être que effectivement c'est des gens qui visent les idées de droite, mais c'est pas le cas. C'est des gens qui visent des idées problématiques qui, quand elles sont exprimées, il se trouve qu'il y en a plus à droite. Mais ce n'est pas quelque chose d'idéologiquement motivé, quoi. Donc, je veux le préciser, je veux que ce soit clair, parce qu'on peut se dire qu'il y a peut-être quelque chose derrière de neutre, qui voudrait être plus neutre. Enfin, qui devrait être plus neutre. Ce n'est pas le cas. Là, justement, c'est aussi neutre qu'on peut. Et ils sont très attentifs à ne pas cibler des idées qui appartiennent à un camp plutôt qu'un autre. Pardon, Chloé, mais je voulais que ça soit clair.
Oui, et donc voilà, donc ça c'est le cadre. Et après, je pense que l'article que tu as cité de The Verge explique extrêmement bien, on n'a pas besoin d'aller encore plus loin que ça, mais le problème c'est que Twitter est une entreprise commerciale, Twitter a besoin de publicité. Quelque chose que détestent les publicitaires, ce sont les espaces non contrôlés dans lesquels leurs publicités vont se retrouver à côté de propos racistes, sexistes, injurieux, diffamatoires, violents, appelant à la résurrection, appelant à l'antisémitisme, enfin, tout ce qu'on peut imaginer, pédophilie, pornographie, enfin, la totale, ça, les annonceurs, ils détestent. Ils ne veulent surtout pas que leur publicité apparaisse à côté de ce type de propos. C'est pour ça que les réseaux sociaux dits 100% liberté d'expression comme Parler, comme Truth Social et comme Getter n'ont pas, enfin ne fonctionnent pas et ont beaucoup de difficultés financières parce qu'ils n'arrivent pas à avoir de la publicité. Et donc, ce qu'explique très bien l'article de The Verge, c'est qu'un peu la quadrature du cercle dans laquelle se retrouve Elon Musk, c'est qu'il veut prôner une liberté d'expression, sauf que s'il fait ça, tous les annonceurs vont partir, sauf qu'il y a besoin d'argent pour faire tourner Twitter, donc ça ne va pas tenir. Il va falloir qu'il fasse des choix.
Ils ont déjà commencé d'ailleurs, les annonceurs, certains à se retirer ou à suspendre leur campagne et d'autres à émettre des réserves sur l'avenir
des réserves,
de la plateforme.
Ouais. Il y a General Motors, donc qui est un peu l'équivalent de Renault en France, qui a annoncé qu'ils suspendaient temporairement leur campagne sur Twitter le temps de voir ce qui se passe et de mieux comprendre ce que va faire Musk. Et d'autres annonceurs ont annoncé dans la presse, alors ils ne sont pas forcément nommés, mais qu'ils surveillent de près ce qui se passe et qu'ils se réservent le droit de retirer leur campagne.
Il y a un autre problème pour les questions de modération, d'une manière générale, un autre problème dont parle d'ailleurs Nilay Patel, c'est le fait que Elon Musk a des intérêts dans de nombreux pays, dont certains de manière très réelle, mettre des pressions sur lui pour qu'il traite les choses différemment, peut-être dans différents pays ou même sur le réseau en général. Tesla a, et c'est essentiellement de Tesla qu'on parle, mais c'est un énorme marché, une usine pour Tesla et un énorme marché pour la vente des voitures. C'est l'exemple qu'on donne en général, mais il n'y a pas que celui-là. C'est quelque chose qui est extrêmement préoccupant aussi. La manière dont Elon Musk va gérer ces pressions-là, parce qu'il n'est pas que CEO de Twitter. Bon, il a parlé, on nous dit aussi, Musk parle d'une super app. Alors la super app, c'est ce X Holding, il veut créer une super app. On pourrait faire tout un épisode sur les super apps.
Ouais, ça, on n'y est pas encore.
On n'y est vraiment pas. C'est genre les Line et ce genre de choses qui sont très populaires en Asie. L'écosystème est différent dans le reste du monde. Je ne suis pas convaincu que le reste du monde puisse soutenir, développer une super app. Mais peu importe, on n'y est vraiment pas encore. Mais cette question de les pressions qu'on peut exercer sur Musk sont vraiment, vraiment préoccupantes. Lui dit, par exemple, quelque chose sur les questions de modération. Il dit, nous allons implémenter un conseil de modération qui statuera sur les grandes décisions à prendre. Et il dit, ils auront des points de vue vastement divers. Et c'est toujours un red flag quand on dit ça dans le contexte politique américain, parce que des idées diverses, c'est une sorte de sous-texte pour dire on va pas se limiter à la bien-pensance de la gauche américaine, ce qui peut, encore une fois, vu d'ici, se dire alors peut-être que c'est que des woke qui font que des trucs hyper... comment dire, je caricature un petit peu mal, mais vous voyez ce que je veux dire. Peut-être qu'on peut se dire, ok, il veut avoir des gens de droite, de gauche, d'extrême droite, du centre, machin. Peut-être que c'est ce qu'il veut faire, mais souvent quand on dit ça, c'est plutôt pour justifier le fait qu'on va inclure des points de vue qui ne seraient pas acceptables dans la bonne société, c'est-à-dire, pour le dire clairement et simplement, des opinions d'extrême droite, des gens qui vont être racistes, sexistes, etc., comme on en voit. Et vous allez me dire, mais enfin Patrick, tu exagères. Ce qui est vraiment terrible, c'est que dans le quotidien de la politique mainstream aux États-Unis aujourd'hui, suite à l'ère de Donald Trump, c'est ce qu'on trouve dans le Parti républicain. Ce n'est plus quelque chose de minoritaire, et c'est pour ça que j'hésite toujours à dire extrême droite et droite américaine. Ils sont un peu mélangés. Donald Trump a pris en otage le Parti républicain, et ils sont devenus monnaie courante. Et ces idées sexistes, racistes, ce n'est même pas une exagération de dire ça, elles sont monnaie courante dans le Parti républicain. Donc, des points de vue extrêmement divers, alors on ne sait pas ce qu'il va en faire de ce conseil de modération, mais c'est forcément préoccupant. Kassim, pardon, j'ai beaucoup parlé.
Non, mais je laissais
parler Kassim.
Non, mais je laissais parler. Alors, j'avais juste deux points. Après, je trouve que vous avez été très complet. J'avais juste deux points à rajouter. D'abord, sur l'importance de Twitter, je voulais juste donner un exemple un peu précis. C'était dans ton introduction, Patrick. Au moment où on enregistre, hier lundi, il y a eu une panne sur Instagram qui a causé des suppressions de comptes, etc. Bref, il y a eu un gros problème sur Instagram. Et le lieu, Instagram, ça appartient à Meta, hein, donc c'est le même réseau que Facebook, etc. Et le lieu qu'ils ont choisi pour communiquer sur leur panne, pour s'expliquer avec leurs utilisateurs, C'est Twitter. Et c'est le lieu que les
Meta,
journalistes sont allés voir aussi.
C'est Meta, pas les utilisateurs, mais Meta a choisi de communiquer sur Twitter, c'est ce que tu veux dire.
Oui, enfin, Instagram a choisi de communiquer sur, sur Twitter, leur panne, pour, alors qu'ils appartiennent à Meta, en fait. Ils auraient pu choisir d'aller sur Facebook, par exemple. Mais ils l'ont fait sur Twitter.
Est-ce qu'ils savent que les journalistes, ils sont où ? Ils sont sur
Twitter.
Twitter.
Donc voilà, c'est pour montrer le côté un peu significatif de Twitter, justement, qui est un peu cette chambre d'écho. Et c'est cet endroit où tu retrouves toutes les annonces du monde entier, quoi.
Ouais.
Les boîtes.
Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui, peut-être, sont moins sur Twitter, qui ne se rendent pas compte de l'importance du réseau. Bon, on l'a déjà dit. Pardon, Kassim.
Non, mais c'était juste, voilà, c'est pour donner un exemple. En plus, c'est un concurrent, justement, je trouve ça assez parlant.
Parlant, oui.
L'autre point que je voulais aborder, c'est qu'en fait, je trouve que peut-être la seule faille qu'il y a dans votre raisonnement, et peut-être celle aussi dans le raisonnement de Nilay Patel, c'est que vous êtes très logique et parfaitement juste dans votre analyse, mais enfin, on parle de Elon Musk.
Tout ce qui vient avant le mais, il n'y a pas de.
On parle de Elon Musk qui a une sorte de bouton aléatoire un peu selon son humeur. Et par exemple, quand j'entends. Mais Twitter doit faire de l'argent. Une entreprise en principe doit faire de l'argent, mais là aujourd'hui Twitter appartient à 100%. Il n'y a plus d'actionnaires. Le seul actionnaire c'est Elon Musk. Il appartient à 100% à Elon Musk. Donc c'est Elon Musk qui décide si Twitter doit faire de l'argent ou non. Si Elon Musk a envie de faire de l'argent avec Twitter, effectivement il doit faire attention aux annonceurs. Il va devoir mettre en place peut-être des formules d'abonnement, etc. On va en parler après. Mais si Elon Musk se réveille un matin et qu'il décide qu'il n'a pas envie de faire de l'argent avec Twitter, il peut ne pas faire de l'argent avec Twitter et il peut juste en faire justement ce qu'il dit vouloir éviter, mais un toxique hellscape ouverte aux idées d'extrême droite et en disant tant pis pour les annonceurs. Alors je pense effectivement que le côté comme tu dis souvent, Patrick, je pense que Elon Musk quand même aime l'argent et va se rappeler qu'il aime l'argent et que quand même les idées d'extrême droite et faire le troll, c'est rigolo.
Il se réveille un jour et il fait mais on aime l'argent. C'est ça qu'il fait.
Exactement.
Non, mais surtout dans cette histoire, il y a la question d'argent, parce qu'il s'est quand même endetté sur 13 milliards de dollars dans cette histoire.
Il y a des créanciers derrière.
Il va quand même falloir les rembourser.
C'est ça. Twitter, la société, est a une dette de 13 milliards aujourd'hui, il doit rembourser 1 milliard par an. Pour vous donner une idée, Twitter rentre environ de l'ordre de 1 milliard par trimestre d'argent. Et ils doivent rembourser 1 milliard en intérêt par an. Donc il y a quand même une pression financière. Après, il peut déclarer banqueroute, les créanciers vont récupérer les morceaux s'il le fait. Mais ce n'est pas non plus qu'il ait la main complètement libre et qu'il avait Twitter entièrement à lui et qu'il n'y avait pas de créanciers derrière.
Et aussi un point hyper important qu'on n'a pas abordé, c'est que moi je ne suis absolument pas persuadée que Elon Musk soit très content d'avoir racheté Twitter pour 44 milliards de dollars.
Ouais.
Parce que à la base, il voulait quand même se défaire de ce rachat au mois de juillet, qu'il avait signé au mois de fin avril. Dès le mois de mai, il avait mis des doutes. En juillet, il dit en fait j'en veux plus. Et c'est parce qu'il était menacé par un procès et que ce procès s'annonçait extrêmement mal pour lui qu'il a accepté de racheter Twitter pour 44 milliards de dollars. Donc il y a aussi cette dimension, il se retrouve avec un truc...
Ça va même plus loin, il devait témoigner la veille ou deux jours avant le jour de son témoignage au procès, sous peine de parjure, il devait témoigner, comme on témoigne dans un procès. Tout à coup, il trouve une solution avec Twitter.
Bon, finalement, on annule
ça
tout.
Va 44 milliards pour que j'ai pas à témoigner. Bon, allez.
C'est un bon exemple de justement à la fois du côté erratique de son comportement et justement aussi de son rappel un peu à la réalité parfois quand il s'agit justement de son argent ou de sa vie privée. Mais
du coup, ça montre justement.
Non, oui.
Bah, on sait pas. Et d'ailleurs, on va voir. Alors, justement, on peut avancer aux autres sujets et on va certainement revenir sur ces questions à un moment. Mais d'abord, ce qu'il a commencé à faire ces derniers jours quand il a effectivement pris le contrôle de la société, il a viré tout le monde. Il a viré il a viré les têtes de la boîte, c'est-à-dire le président, Parag Agrawal, tout à fait la direction, mais aussi d'autres personnalités importantes, dont Vijaya Gadde, qui était la personne en charge de Trust and Safety, donc la modération, en gros, et l'expérience utilisateur. Et elle a fait beaucoup pour... Je sais que beaucoup de gens disent « Ah, mais c'est déjà le bordel, Twitter, c'est déjà l'enfer. Alors, est-ce que ça peut être pire ?» Alors, oui, bien sûr, ça peut être pire. Et surtout, elle a beaucoup fait pour essayer d'améliorer la situation. Et elle était active. Et il se trouve que bah il l'a viré aussi. Bon, il a aussi commencé à faire des passages en revue des ingénieurs de Twitter. Il a ramené des gens de Tesla et d'autres de ses boîtes pour passer en revue les codes. Il semblerait qu'il veuille virer entre 25 et 50% de la boîte. Je sais pas si combien il fera exactement, mais qu'il veuille virer ça. Et il a fait, enfin, on a entendu des anecdotes un petit peu sordides, genre il a demandé à tous les ingénieurs d'imprimer tout le code qu'ils avaient écrit dans les 30 à 60 jours, puis finalement non, il ne fallait pas l'imprimer. Peut-être que quelqu'un s'est aperçu que ça ne ferait pas très bon comme image des ingénieurs avec des monceaux de papier. Finalement non, on ne devait pas l'imprimer, etc. Enfin, et qu'ils vont passer le code en revue. En gros, il nettoie et il va mettre ses gens en place. J'ai mon avis là-dessus, bien sûr, mais du coup, Kassim, qu'est-ce que tu penses de tout ça ?
Alors déjà que c'est violent, ça veut dire que c'est pas. Enfin, bon, clairement, on savait que Musk n'était pas aligné avec la direction précédente de Twitter, donc c'est pas non plus ultra surprenant que la direction parte immédiatement. Mais habituellement, dans un rachat un peu, on va dire correct et où les deux entreprises ont accepté normalement de se faire racheter, etc. La direction reste au moins quelques mois, voire plusieurs années, peut-être un ou deux ans, pour passer
au moins
le témoin.
Quelques jours ou quelques semaines pour passer la main, tu vois, voilà. Même sans parler de moi.
Une transition correcte.
Ouais.
Là, clairement, on est sur une transition violente, avec notamment dans les anecdotes, tu ne l'as pas mentionné, mais la direction, elle a quand même été escortée par la sécurité, donc ce qui est un peu, voilà, vraiment, c'est pour enfin, donner le côté manu militari, on reprend le contrôle de Twitter, quoi. Une analyse que tu n'as pas relayée, je crois, dans tes notes, c'est que j'avais vu passer, qui me semblait intéressante aussi, c'est la question de la sécurité, justement, puisque la personne en charge de la sécurité s'est fait évacuer. Il y a le fait que les entreprises d'Elon Musk, justement, sont pas forcément très connues pour le moment pour être très carrées sur la sécurité informatique et notamment, alors je ne suis pas le plus grand spécialiste de Tesla, mais effectivement, il y a eu une succession de problèmes dans le code des véhicules et à plusieurs reprises de problèmes de piratage, etc. Et que du coup, effectivement, c'est pas forcément du très bon signe pour Twitter si on ramène des gens de l'équipe de Musk. Musk n'a pas l'air d'avoir été très regardant sur la sécurité de ses produits jusqu'à présent à travers cette entreprise. Alors, il peut toujours y avoir des problèmes et tout, mais voilà, c'est, pour l'instant, c'est pas très engageant sur ce point-là, oui. Pour Twitter. Après c'est difficile de faire plus que de commentaires qu'à part que le côté violent de la chose et le côté que c'est pas très positif clairement pour les employés Twitter. Déjà ça fait plusieurs mois qu'ils étaient clairement sous pression à pas savoir pas connaître leur avenir. Maintenant on connaît un peu mieux leur avenir et il est pas forcément très radieux et oui, on a l'impression qu'ils ne savent pas trop. Le côté de l'impression, en dehors de la mauvaise image que ça donnait, c'est aussi le côté qu'on a l'impression qu'il ne sait pas du tout gérer le truc. Ça va un peu dans tous les sens. Et il n'y a pas vraiment de ligne directrice, quoi.
Il y a un truc, je pense, qui va être intéressant. Je ne sais pas si vous vous êtes amusé, et je vous le conseille si vous ne l'avez pas fait, de lire la quarantaine de pages d'échanges de SMS de Musk avec sa petite cour qui ont été publiées par le tribunal du Delaware. Parce que là, bizarrement, il y a quelques noms qui étaient avec qui il échangeait, qui sont en train de repopper, qui sont tous apparus au QG de Twitter. Donc, c'est des gens qui sont proches de Musk, qui sont investisseurs, qui sont dans sa petite garde rapprochée. Et là, bizarrement, ils sont tous là. Hein. Ils sont tous en train de se placer. Il y en a notamment un que je surveille de près parce que dans les SMS, il avait fait plein de suggestions sur qu'est-ce qu'il faut faire dès qu'il reprend le contrôle de Twitter, il faut faire ça. Et après, il disait genre, s'il te plaît, nomme-moi CEO de Twitter, c'est mon job de rêve, je sais quoi faire. Et ce mec-là, il est dans la place déjà, donc à surveiller si effectivement son rêve va devenir réalité. Mais voilà, en fait, ça, là, ce qu'on voit, en fait, c'est assez typique d'un rachat hostile. C'est-à-dire, bah, on arrive, on coupe les têtes et on fait régner la terreur chez les salariés qui restent. En leur faisant, en les menaçant de attention, si vous ne faites pas vos devoirs, parce que là, grosso modo, ils leur donnent des devoirs aux ingénieurs, si vous ne faites pas vos devoirs sous 72 heures, vous êtes viré.
Donc ça, ouais, c'est clairement... y a un autre problème qu'on n'a pas encore mentionné, c'est la spécialisation. C'est-à-dire qu'un ingénieur, il ne sait pas tout faire tout le temps sur tous les sujets. Quoi. Oui. Et là, en fait, Elon Musk ramène des gens de The Boring Company, de Neuralink, de Tesla et tout, ça c'est très bien. Mais quand tu travailles tous les jours sur de l'automobile, tu ne deviens pas expert en réseaux sociaux du jour au lendemain. Et ça me fait le même effet que quand on nomme un exécutif, un cadre vraiment de la tech. Justement à la tête d'un studio de jeux vidéo ou dans ce genre de truc où
tu prends les pires exemples.
Ah bah oui, mais tu sais, enfin des fois, enfin c'est pas ton métier quoi, enfin c'est pas un sujet que tu connais et tu peux pas facilement passer du coq à l'âne devenir comme ça expert Twitter, expert en produit quoi.
Mais je vais me faire un petit peu l'avocat du diable sur cette histoire. Tu dis, ils ne sont pas experts, mais on ne leur demande pas de réécrire le code du réseau. On leur demande de regarder ce qu'ont fait les ingénieurs de Twitter. Et Musk lui-même a peut-être des vagues connaissances de programmation, mais il dit, bon, je veux voir s'ils codent bien ou pas, je veux voir qui est bon ou pas. Je vais appeler des gens auxquels je fais confiance, qui sont eux aussi ingénieurs, et ils vont savoir, plus ou moins, peut-être qu'ils ne sauront pas refaire le truc, mais ils vont savoir si le code est propre, sérieux ou pas. Surtout qu'il leur a demandé de voir leur production pendant les 60 derniers jours, pendant qu'ils étaient dans la tourmente. Et peut-être qu'il va voir que ceux qui ont continué à produire, ils sont peut-être contents de l'éventualité de l'arrivée de Musk. Donc, c'est ceux qu'il va pouvoir garder. Et d'une manière générale, tu le disais, Chloé, c'est typique d'un rachat hostile. Je me fais un peu l'avocat du diable, hein, mais c'est typique d'un rachat hostile. Alors, il y a des petites mesquineries où, visiblement, il aurait renvoyé par Agrawal et les autres dirigeants pour faute, de manière à ne pas avoir à leur payer leurs 50 millions, 37 millions, 17 millions de parachutes dorés. Ce qui est, on va dire, mesquin, agressif, méchant, même si, je ne sais pas quelle est la fortune de Parag Agrawal, mais il ne va plus pouvoir rentrer dans aucune boîte que ce soit, à moins que Twitter se plante. Peut-être qu'il a besoin d'un peu d'argent, mais je ne sais pas s'il a besoin de 50 millions. Le fait est que beaucoup de gens ont dit « Ah, mais c'est ridicule, regarde, ce qu'il essaye de faire, c'est hyper agressif. » Si Twitter est une boîte qui a besoin de quelques centaines de millions de dollars pour fonctionner, le fait de virer la moitié de la société de gens dont il estime qu'ils ne font pas un bon boulot parce qu'ils estiment que Twitter est mal géré, et d'ailleurs, beaucoup de gens estiment que Twitter est mal géré et que le produit n'est pas bon, etc. C'est, d'ailleurs, Nilay Patel ouvre son article en disant « Twitter est une clown car company that succeeds in spite of itself. » C'est une société clownesque qui réussit malgré elle-même. Elon Musk, il a une idée sur la manière dont ça devrait se passer. Il arrive, il vire tout le monde, il met ses gens en place. Il y a un type qu'il connaît, à qui il fait confiance, qui dit « Attends, moi, Twitter, je sais ce qu'il faut faire, on en a parlé, dans des SMS un petit peu amusants peut-être, mais on en a parlé, tu mets en place, moi, je te gère ça. » Ça ne serait pas Elon Musk, je crois qu'on regarderait ça avec beaucoup moins de dérision. C'est un type qui arrive et qui veut reprendre en main les choses, qui le fait vite, très vite, et qui a d'ailleurs commencé à suggérer et même à implémenter des changements assez radicaux, et c'est la troisième partie de cette discussion. On arrive aux choses qu'il a suggérées. Alors, on a parlé de l'argent que doit Twitter. Hein. Quand on parle d'un milliard par an, oui, peut-être que les 100 millions qu'auraient dû recevoir les dirigeants, il peut les utiliser à autre chose. Admettons, mais il a commencé à faire plusieurs changements. L'un d'entre eux qui me paraît intéressant, c'est le fait de lancer de relancer le produit Vine. Vous savez, c'était les vidéos courtes, c'était un petit peu le TikTok avant TikTok.
C'est TikTok, ouais.
C'est ça. Et il dit, et la société Vine avait été rachetée par Twitter en 2012 et fermée en 2016. Il ne l'avait vraiment pas développée. Lui, il a dit, on va relancer Vine. Et en fin 2022, je veux que ça soit lancé. Dès La semaine prochaine, je veux un changement de l'abonnement Twitter Blue qui était disponible qu'aux États-Unis pour 4$ par mois. Je veux qu'il coûte 20$ par mois et que ça vérifie automatiquement les utilisateurs. Et a priori, les gens qui ne paieront pas ces 20$ par mois vont être, vont perdre leur vérification sur Twitter. Il a aussi changé la page d'accueil de Twitter quand les gens ne sont pas, n'ont pas de compte. Il l'a transformé en une page d'accueil qui vous encourage à vous créer un compte. Et il les redirige les gens vers la page d'exploration, donc il vous donne un petit peu d'exploration Twitter, qui vous donne une idée du contenu qu'il y a sur Twitter. Donc, il a commencé déjà à implémenter des choses. Je suis sûr que vous avez des choses à dire sur cette histoire d'abonnement à 20$ par mois au lieu de 5. Oui. Chloé, je t'entends déjà nous...
Bah oui, en fait, c'est le truc qui a fait plus parler. C'est cette histoire de la certification payante. Et bon, bah, ça n'a pas dû vous échapper que ça fait énormément réagir. Alors, moi, j'ai juste déjà une première interrogation. C'est que Twitter Blue n'est disponible pour le moment que dans les pays anglo-saxons. Quid des pays où Twitter Blue n'existe pas ? Est-ce que les utilisateurs certifiés, dont notamment les utilisateurs français, mais pas que, devront payer d'une manière ou d'une autre, sachant que le service n'est pas encore en place en Europe ?
Bon, ouais, ça, il peut le mettre en place très vite, c'est Elon Musk, tu vois, il fait...
Il peut. Mais bon, première parenthèse. Deuxième parenthèse, en fait, une des réactions que j'ai beaucoup vues et que je trouve assez intéressante et qui rejoint ce qu'on disait au tout début de cette émission, c'est notamment, c'était Stephen King qui a dit, grosso modo, qu'ils aillent se faire voir avec leurs 20$, c'est eux qui devraient payer pour être présents sur cette plateforme. Mmh. Et c'est un peu ce qu'on disait au début, c'est que la valeur de Twitter, c'est ses utilisateurs, ses utilisateurs certifiés. C'est les politiques, c'est les célébrités, c'est les médias, c'est les militants. Et en fait, quand on regarde les chiffres de Twitter, le nombre d'utilisateurs réellement actifs, ceux qui, en gros... le maximum de contenu sur cette plateforme, c'est genre quelque chose comme 1% en fait des utilisateurs totaux de Twitter. Les autres se contentent de regarder. Donc, si on se met, le risque, c'est de se mettre à dos les gens qui créent en fait la valeur de Twitter, qui vont dire bah non, désolé, j'ai pas envie de me faire certifier, et qui risquent. Alors, il y a deux risques. Un, de partir. Deux, on peut se dire, par exemple, les médias, je ne suis pas sûre que tous les médias vont accepter de payer 20$ par mois pour certifier leurs journalistes. Sachant qu'on parle des fois de rédactions qui ont 1500 journalistes à faire certifier. Je ne suis pas sûre que ce soit une dépense qui soit vue comme prioritaire. La question, c'est, bon, bah, si tu abandonnes ta certification, bah, ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent techniquement usurper ton identité sur Twitter. Donc,
oui, il faut rappeler que la certification à la base, c'est censé être ça. C'est que Twitter certifie que tu es vraiment la personne que tu prétends être sur ton compte, qu'ils ont vérifié. Exactement. Ils demandent une carte d'identité. Enfin, il y a un petit processus de vérification. À la base, c'est censé être ça, la certification, le petit checkmark. Ouais.
Voilà, c'est pour éviter l'usurpation et pour savoir que quand vous tombez sur le compte d'Emmanuel Macron, bah, c'est bien le vrai Emmanuel Macron qui est derrière, que quand vous tombez sur le compte du président américain, c'est bien le président américain, du New York Times, c'est bien le New York Times, de telle célébrité, c'est bien telle célébrité, et c'est pas quelqu'un qui se fait passer pour cette célébrité. Et le risque, voilà, si bah, y a un mouvement de rejet, je pense notamment du côté des médias et des entreprises, enfin, des entreprises peut-être pas, mais en tout cas plus des médias, on risque peut-être de voir encore plus de désinformation déferler sur Twitter.
Bah, moi, ça, je ne suis pas convaincu que ça aille dans ce sens-là, c'est possible. Y a beaucoup de gens qui disent « Ah, mais enfin, qui va payer 20$ ? Vous rendez compte, c'est super cher. Moi, je ne paye pas 20$. » Évidemment, c'est pas ciblé les utilisateurs finaux normaux. C'est ciblé tous ceux qui pourraient vouloir avoir une certification, une vérification. Et il fait le pari, je pense, qu'il y en a beaucoup, possiblement, c'est-à-dire toutes les personnalités publiques, les médias. Alors oui, peut-être que Stephen King va dire « Ah, fuck Twitter, c'est eux qui devraient me payer. » OK, une personne sur beaucoup. Mais peut-être que c'est un moyen de ramener de l'argent de manière un petit peu plus régulière. Et en même temps, quand on regarde les chiffres, Twitter a quoi ? 350 millions d'utilisateurs réguliers, mensuels. Si on prend quoi ? Il y aurait moins d'1% de gens qui s'abonneraient. Ça ferait, je ne sais pas, 60 millions de dollars si tout cela payait. et c'est vraiment des chiffres à la louche, 60 millions sur 1 milliard qui rentre par trimestre, 60 millions de dollars, ça ne va pas changer beaucoup. Donc, ce qui me préoccupe, moi, là-dedans, encore plus que ça, c'est que un compte vérifié et un compte non vérifié, la différence, c'est que le compte vérifié a une sorte de facteur de, d'importance supplémentaire, artificiel si vous voulez, mais important si on fait attention à ce que la personne dit, on sait que c'est une personne qui ne fait pas partie de la masse des gens qui pourraient être n'importe qui. Et du coup, alors évidemment, les personnalités publiques vont sans doute payer les 20 dollars, j'imagine qu'il y en a beaucoup qui le feront, et vous allez dire, ah, mais 20 dollars, c'est beaucoup. Enfin, y a plein de gens qui payent 20 dollars pour 1000 services différents quand il s'agit des réseaux sociaux, que ce soit les Later, les Buffer, les Canva, enfin, si vous ne connaissez pas, il y a plein d'outils sur les réseaux sociaux qui coûtent dans ces prix-là, et plein de gens les payent pour leur utilisation professionnelle, mais indépendante. Là, ils pourraient tout à fait le faire, mais ce que ça veut dire, c'est que les gens qui ne sont pas dans cette catégorie de personnes, qui sont soit très riches, soit qui en ont un intérêt professionnel, ne seront pas vérifiés et donc seront un petit peu plus noyés dans la masse. Et c'est peut-être une vision un peu biaisée qui revient à la politique, encore une fois, mais moi, c'est ça qui m'inquiète un petit peu, quoi. Moi, quand je vois dans mes mentions quelqu'un qui est vérifié, bah, j'y fais un petit peu plus attention que quelqu'un. Que toutes les mentions, à moins que je connaisse la personne, évidemment, mais d'une personne qui n'est pas vérifiée. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement de gens que tu as besoin d'une aide pour t'indiquer qui est un petit peu plus, c'est terrible à dire, mais important que les autres. Donc moi, c'est ça qui me préoccupe là-dedans spécifiquement. Ceci dit, Twitter, c'est des rumeurs, et elles sont sorties juste avant le rachat, donc peut-être que c'était leaké intentionnellement, mais il semble que les recherches internes montrent que les utilisateurs les plus actifs perdent de leur attrait pour Twitter. Les utilisateurs les plus actifs, c'est genre ceux qui tweetent trois fois par semaine, un truc du genre. Déjà, moi, je tweete beaucoup plus, mais et qui commencent à s'éloigner de la plateforme. Donc,
juste sur l'assertif, oui. Je voyais une peur qui montait, et ça aussi, ça va être la question, c'est comment va être faite la certification selon Musk. Parce que je vois beaucoup de gens qui disent, genre, oui, mais du coup, ça veut dire que n'importe qui va pouvoir se faire certifier et du coup, et faire monter, du coup, dans l'algorithme, la puissance de ses tweets. Mais la question, c'est, est-ce qu'on va permettre à Toto75 d'être certifié ? Donc, c'est-à-dire qu'il continue à écrire sous pseudo avec une photo qui n'est pas la sienne, ou est-ce que ce sera vraiment une vérification qui imposera de tweeter sur son vrai nom, avec sa véritable photo, parce que ça aussi, ça risque de changer le jeu. Si c'est une certification, une réelle certification, comme il y a sur LinkedIn ou comme il y a actuellement sur Twitter, bon, ça ne bénéficiera pas aux trolls, parce que les trolls, bah, du coup, ça veut dire qu'ils devront agir à visage découvert, ce qui n'est pas forcément dans leur intérêt.
J'imagine que c'est dans cette direction qu'il se dirige. C'est ce qu'il semblait dire quand il parlait des problèmes de bots, etc. Il disait « je ne veux que des gens dont l'identité est vérifiée », ce qui pose d'autres problèmes ensuite pour les gens qui sont en danger si leur identité est vérifiée. D'une manière générale, la vision qu'a Musk du truc, c'est une vision qui est très de sa position dans la vie et dans la société et dans le monde. Mais bon, c'est un autre problème. Moi, je pense que ça serait certification vérifiée avec l'identité de la personne. Kassim, pardon, tu allais ajouter quelque chose.
Oui, j'allais déjà dire que ce n'est pas forcément trop un problème que Toto32 soit certifié par Twitter, dans la mesure où, à l'origine, c'est juste que le processus de certification n'a jamais eu vraiment les capacités et les budgets de ses ambitions. Mais normalement, en principe, il avait été bloqué il y a plusieurs années, et puis remis, et puis rebloqué. Mais à l'origine, normalement, ça devait s'ouvrir à un peu n'importe qui, justement, sous vérification d'identité avec ta carte d'identité. Ça devait être très simplifié, normalement, d'obtenir une certification. Le but étant que, juste au moins, tu saches que c'est un compte qui appartient à une véritable personne et un peu un minimum, qui a fait un minimum de prise de sérieux sur son compte. Après, il peut mettre un avatar de Naruto s'il veut. C'est pas très grave en soi, d'après moi. Au moins tu sais qu'il a fait ce processus-là. Moi, là, les deux questions que je me pose, le premier, c'était sur les institutions. Est-ce que, du coup, on va vraiment demander à chaque gouvernement de payer 20 dollars par mois, chaque université, chaque lycée, chaque truc ?
Je pense que oui. Hein. Mais c'est pas... Est-ce que c'est problématique ?
Oui, clairement.
Pourquoi ?
Pour moi, c'est, alors déjà, c'est problématique déjà pour certains budgets, parce que quand c'est le gouvernement, c'est pas très grave. Je pense que le gouvernement peut se permettre de payer $20 par mois pour vérifier ses comptes. Par contre, quand c'est des plus petites structures, des ONG, des lycées, des plus petites structures scolaires, etc., de services publics, c'est déjà plus limité en termes de budget. Je suis pas sûr que une université même de taille moyenne, de ville de taille moyenne,
Par mois, n'exagérons pas. Ils ont bien des. On nous disait dans la chatroom, on paye bien notre abonnement téléphonique. Tu vois, à un moment, $20, c'est un outil informatique qu'on utilise. Je peux
juste
imaginer.
Assertif, je sais pas. Enfin, c'est compliqué. Enfin, je trouve ça compliqué. C'est bizarre.
C'est pas
comme
philosophiquement
offre, en fait,
que tu as une opposition à l'idée plutôt que véritablement financièrement.
Non, parce que en fait, il y a plein de sites, enfin, il y a plein de services, type tous les Google, Microsoft et compagnie, quand ils proposent des services justement particuliers et professionnels, déjà le service pour particuliers est beaucoup moins cher que le service pour les professionnels. Donc on aurait pu imaginer par exemple à Twitter Blue à $4 par mois pour les particuliers, à $20 par mois pour les pros. Et ensuite, surtout, ils ont des, enfin voilà, ils ont une offre. Typiquement, ils ont des offres pour les institutions, justement. Ils vont avoir des contrats cadres pour le gouvernement, etc. Et c'est des choses beaucoup plus formalisées. Tu peux pas juste, enfin, le lancement d'un service pour des pros, pour des entreprises. Normalement, tu peux faire payer par utilisateur plutôt que payer. Voilà. Enfin, bref, il y a. C'est pas. Ouais, voilà. Quoi, c'est. Je trouve ça un peu lancé un peu comme ça, sans réfléchir.
Encore une fois, c'est la rumeur. C'est une rumeur. On ne sait pas comment sera implémenté. Mais oui.
Je voulais juste faire une remarque par rapport au chat et après je vous laisse. C'était juste par rapport, il y a un commentaire qui pose la question un peu de l'importance, enfin quelle importance ça a les comptes certifiés, parce qu'après tout, quand un ministre tweet, on sait très bien que c'est le bon ministre et donc tout va bien. Non, il suffit juste de voir par exemple, il y a eu un événement international récemment, c'était le décès de la reine d'Angleterre. Et il faut voir le nombre de faux comptes de la BBC justement, qui des fois mettent un faux logo certif même dans leur Twitter name pour un peu cacher, pour faire croire qu'ils sont le vrai BBC, qui ont annoncé des décès ou d'autres.
Même récemment, tu as eu des faux comptes Donald Trump, qui, en fait, c'était des comptes certifiés déjà, qui ont changé leur nom en Donald Jean Trump, pour dire « Ah, super, génial, merci Elon de m'avoir redonné accès à mon compte pour tromper les gens, quoi. » Et alors que c'était absolument pas vrai.
Je crois on va conclure, on a quand même passé pas mal de temps sur Twitter, mais c'est normal, hein, c'est vraiment quelque chose d'important. Mais la chose sur laquelle j'aimerais insister encore une fois en conclusion, c'est vraiment cette importance de Twitter que beaucoup d'auditeurs, je suis sûr, auront tendance à minimiser. Quand on donne une visibilité à quelque chose, ça a forcément un impact. Et c'est l'un des grands problèmes qu'on a à gérer dans notre société depuis l'avènement de l'Internet qui donne une voix à tout le monde. C'est le fait que, c'était quelque chose qui a toujours existé évidemment, mais le fait de donner une visibilité à une idée va forcément la diffuser. Et c'est ce dont on s'est rendu compte, et c'est un truc dont on parle depuis longtemps. On pensait qu'en exposant toutes les idées au grand jour, eh bien, il y a cette expression en anglais qui est « sunlight will disinfect ». La lumière du soleil va désinfecter et on va nettoyer les choses qui sont problématiques. Et ce dont on s'est rendu compte, la leçon vraiment à retenir de ces 10 dernières années d'Internet, c'est que non. Les choses qui sont problématiques, et encore une fois, problématiques, on ne parle pas d'idées qui opposent la droite et la gauche dans le bon cadre républicain-démocratique. On parle d'idées véritablement dangereuses pour la démocratie et pour notre vie en société. Eh bien, ces idées, quand elles ont pignon sur rue, elles se diffusent. C'est ce qu'on a constaté. Elles se diffusent aussi ridicules qu'elles soient, et on en a vu des extrêmes ces derniers mois, et ces dernières années, avec le Covid et avec la guerre en Ukraine, par exemple, aussi ridicule qu'elle soit, elle se diffuse et elle se propage. Et donc, cette illusion qu'appellent les partisans de l'extrême droite américaine et de la droite américaine la liberté d'expression extrême est un travestissement de l'idée réelle de liberté d'expression. C'est-à-dire que en diffusant des idées, toutes les idées, entre guillemets, la conséquence, c'est pas plus de clarté dans le débat des idées, c'est le chaos qui pousse à l'abandon de la réflexion. On va diffuser des idées dans tous les sens, des idées ridicules, peu importe qu'elles soient ridicules. D'ailleurs, ça fait partie de... éléments de l'arsenal de désinformation du gouvernement russe. On va diffuser des idées complètement ridicules. Et à force, les gens, même ceux qui ne vont pas être partisans de ces idées, ils ne vont plus savoir quoi penser parce qu'on dit « Oui, mais alors on ne sait pas, les experts disent ceci, j'ai vu ça, j'ai lu ça sur les réseaux sociaux. » Et donc, on abandonne. Et ça mène vraiment à une confusion dans l'espace social. Et on le voit beaucoup plus aux États-Unis. Heureusement, on en est un petit peu préservé chez nous. D'ailleurs, un aspect qu'on n'a pas abordé, c'est le fait que Twitter va devoir se conformer à la loi européenne sur ces sujets-là. Donc, on sera un petit peu moins touché. C'est vrai. Moi, ce que je dis, c'est que ce n'est pas les questions européennes qui me préoccupent, c'est les questions partout ailleurs, que ce soit en Asie, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, parce que ce qui se passe aux États-Unis nous affecte forcément. Et donc, il faut vraiment comprendre que la grande mascarade dans cette histoire, c'est cette idée populaire chez les Républicains de la liberté d'expression absolue et qu'on entend reprise, qu'on a même vu reprise dans la chatroom ici, mais c'est bien la liberté d'expression. Pourquoi vous ne voulez pas de la liberté d'expression ? Parce que quand on diffuse n'importe quelle idée sans modération, ce que ça crée, c'est du chaos et de la confusion. Et donc, c'est de l'abandon démocratique.
Ouais, et alors, je rajouterai un point sur ce que tu viens de dire. Aussi, la liberté d'expression absolue, c'est en fait, en réalité, c'est la liberté d'expression de certains sur d'autres qui n'auront plus le droit de s'exprimer. En fait. À partir du moment où tu commences à balancer un tas d'atrocités homophobes, etc., forcément, écoute, les personnes LGBT vont forcément avoir moins d'attrait pour la plateforme. Et donc, c'est la loi du bully et du plus fort, et c'est la loi de la jungle.
Il y a même une manière plus simple de l'exprimer. Il y a des choses qui sont illégales chez nous en France et en Europe, qu'on n'a pas le droit de dire, tout simplement. Alors, vous pourrez peut-être contester cette idée, bon courage, si vous voulez y aller, allez-y. Mais il y a des choses qui sont illégales et qu'on n'a pas le droit de dire. Donc, ça veut bien dire qu'il y a des choses... D'ailleurs, même aux États-Unis, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire qui sont plus encadrées. Mais... Donc, il y a cette liberté d'expression extrême que défendent ces gens-là. Il y a un autre agenda derrière qui est pas du tout aussi louable que ce qu'ils veulent exprimer en déguisant cette idée avec une apparence plus attrayante qui est « Ah ben, je suis pour la liberté d'expression, on ne peut pas être contre la liberté d'expression. » Je suis vraiment inquiet, hein. Je suis vraiment inquiet. Je ne sais pas si, évidemment, je l'ai exprimé, mais ce qui s'est passé aux États-Unis ces 6 dernières années est terrifiant pour la démocratie, vraiment. Et on s'est rendu compte à quel point, à la fois, la démocratie a tenu aux États-Unis, mais à quel point on est passé près du gouffre. Et les gens qui défendent cette idée de liberté d'expression absolue sont les partisans de Donald Trump qui contestent encore les résultats de l'élection américaine de 2020. Ils prétendent que l'élection a été truquée et que Trump devrait être président. Enfin, on est vraiment... Quand je dis c'est antidémocratique, c'est un danger pour la vie républicaine, etc., on pourrait dire, Patrick, les grands mots. Non. Littéralement, c'est un danger pour la démocratie, c'est ce qui se passe là. Littéralement. Alors, je ne dis pas que demain, il y a plein de choses qui sont à prendre en compte dans l'évolution de Twitter. Mais... littéralement, quand on regardait ce qui s'est passé aux États-Unis et les histoires du 6 janvier, c'est réellement un danger pour la démocratie.
Je pense que tu as parfaitement raison, mais tu oublies un élément. C'est que déjà, maintenant, on peut éditer nos tweets. Enfin, c'est en train d'arriver. Et le deuxième élément, c'est que peut-être le lecteur de vidéo intégré de Twitter va bénéficier d'un meilleur algorithme de compression et enfin avoir des trailers de jeux vidéo dans une qualité correcte.
Pardon, Kassim, j'avais oublié ça. Bon, OK, je retire ce que j'ai dit. Merci, Elon Musk. Chloé, je te laisse le mot de la fin sur ce sujet et puis on va avancer parce que ça fait une heure qu'on est dessus.
Oh non, moi je pense qu'on peut avancer, hein, mais je pense que c'est un sujet qui va encore nous tenir en haleine pendant très très longtemps, donc je me prépare à encore écrire beaucoup sur Elon et sur Twitter.
Très rapidement, je voudrais vous parler maintenant des résultats financiers des GAFAM. C'est l'autre gros sujet de cette semaine. En gros, ce qui se passe, c'est que les GAFAM ont perdu énormément d'argent en valeur boursière. Les 20 plus grands millionnaires, enfin les 20 plus riches milliardaires du monde ont perdu 500 milliards de dollars cette année. Vous vous rendez compte ? Bon, c'est la valeur de leurs avoirs, hein, ce n'est pas l'argent qu'ils ont en banque. Mais comme on dit qu'ils sont riches, quand on prend ces éléments en compte, et il y a des gens qui vont dire « Ah ben non, enfin, c'est que de l'argent virtuel », bah, si on dit qu'ils sont riches quand ils ont cet argent virtuel, là, ils sont plus pauvres, les pauvres. Ils ont perdu 500 milliards. Bon, en réalité, ce qui se passe, c'est que les GAFAM et le secteur de la tech a connu une chute assez dramatique. Sauf que...
Oula, oh, ok.
Sauf que...
Calmons-nous sur les termes.
La chute est dramatique cette année. De la valeur boursière, de l'action.
Hein, la valeur boursière, des...
Mais oui, bien
dépend
sûr.
De qui, ça dépend de qui, et oui, ok.
Alors, laisse-moi finir, Kassim, tu vas voir que tu vas être content au bout du compte.
Surtout pour un.
Oui, voilà, ça ok, mais bref.
Ce qui s'est passé, alors si on prend l'exemple des GAFAM spécifiquement, les 5, ils ont tous perdu de la valeur boursière. Sauf que, ils sont en réalité plus ou moins revenus au niveau d'avant la pandémie. Donc, il y a eu une grosse, grosse croissance de la valeur boursière et des revenus et tout ça, ça va ensemble. Pendant la pandémie, vous le savez, le secteur de la tech a un petit peu explosé. Et bien là, ils sont quand on dit « Oh, mais depuis l'année dernière, regardez la chute, machin », bon, en fait, ils sont revenus à la valeur qu'ils avaient avant la pandémie. Donc, ce n'est pas qu'ils étaient dans des situations dramatiques avant. Sauf deux sociétés de ces cinq. Apple, qui continue à monter de manière absolument insolente. Un exemple, c'est, alors ça inclut pas encore la question des iPhone 14 dans leur rapport sur leur quatrième trimestre et sur l'année, mais pour les ventes de téléphones mobiles, pour le marché en général, ils ont chuté de 12% pour tout le monde, en moyenne 12%, enfin en moyenne sur l'industrie 12%, sauf pour Apple, chez qui ils ont monté de 2%. Donc, dans un marché où les ventes diminuent, Apple est le seul qui continue à augmenter. Donc, chez Apple, ça va très bien. Et l'autre exception, c'est Meta, donc Instagram et Facebook et Oculus, chez qui, par contre, ça va beaucoup moins bien. Alors, j'avais le chiffre, je vais vous le donner si je le retrouve. La valeur boursière de Meta était... J'ai plus le chiffre.
J'ai les graphiques devant les yeux, si tu veux.
D'accord. Parce que moi, je voulais voir...
Moi, tu parles, je suis en train de vérifier.
Ah, mais c'est ça, voilà, je l'ai. Ils étaient à 1 billion, donc 1000 milliards de dollars comme capitalisation boursière en juin 2021. Aujourd'hui, ils sont à 730... ils ont perdu 730 milliards, donc ils sont à
247.
Quelque chose comme ça. C'est une chute absolument monumentale. Ce qui est surprenant, et d'ailleurs certains ont fait remarquer la chose, la société en elle-même ne se porte pas si mal. Ils ont notamment mentionné que Instagram, par exemple, a atteint 2 milliards d'utilisateurs mensuels cette année, contre 1 milliard en 2018. WhatsApp a 2 milliards d'utilisateurs quotidiens. La publicité se porte toujours bien chez Meta. Il y a TikTok, qui est le grand méchant de l'histoire, qui semble arriver à un plateau. Donc, ils ne sont pas en train de complètement bouffer Meta non plus. Mais il n'empêche, la bourse qui... Ne l'oublions pas, hein, la bourse, ce n'est pas la valeur réelle d'une société, c'est les perspectives de croissance que lui attribue le marché. Et clairement...
Ce qui plombe Meta, c'est son nom, en fait, c'est le changement de nom. C'est littéralement
personne
ça qui plombe Meta.
Cru.
En fait, c'est que Mark Zuckerberg a renommé sa boîte sur le segment qui est dans le rouge de trimestre en trimestre. Alors évidemment, quand tu investis dans un truc dans lequel tu crois pour l'avenir, c'est normal aussi au début d'être dans le rouge, mais là, ils sont très dans le rouge et ça cache... Justement, en fait ce changement de nom cache les bons résultats en fait, du reste de la boîte, justement. Si c'était un nom qui englobait toutes les activités et de Facebook et d'Instagram et de la partie Meta, etc., je pense que le coup... Honnêtement, je pense que ça se porte... la boîte se porterait mieux en termes de...
Quoi.
Ouais. Il a tout mis... Il a mis tout le focus et tout le projecteur sur la branche qui est dans le rouge. Donc,
et surtout qui ne convainc personne. Parce qu'il pourrait dire, tu vois, dans 5-10 ans, l'Internet, ça sera ça. Et nous, on est en avance dessus. Mais tous ceux qui l'utilisent et qui le testent, alors peut-être que c'est un manque de vision, mais ils disent « Mais c'est quoi ton truc, là ?» Non, non, nous, on n'y croit pas. Et donc, oui, ça, je suis d'accord. Il a complètement brandé sa boîte, littéralement, sur cette technologie-là à laquelle personne ne croit. Donc, mauvais calcul de...
C'est pas tant à personne ne croit. C'est plutôt que les marchés, vu la conférence qu'il y a eu l'année dernière, absolument une heure et demie sur le métavers, etc., il y a eu des attentes, et des attentes, on va dire, de... Parce que la bourse, ce qu'aime la bourse, c'est le court terme. Mmh. Et c'est les résultats
le
tout de suite.
Suivant et le
c'est trimestre pas suivant, et c'est quand on lui vend un rêve sur 10 ans, la bourse, elle dit, oui, enfin ok, le rêve, il est tout là-bas, mais là, pour le moment, ce que tu montes sur ton métavers, franchement, ça ne te fait pas rêver. C'est pas terrible, c'est moche, il y a personne dessus, c'est pas très intéressant, c'est pas du tout ce que tu m'as vendu. Mmh. Et en face, Zuckerberg dit, mais non, mais moi, ce que je vous ai vendu, c'est une vision dans 10 ans, on est encore au tout début. Et je pense, là, j'ai trouvé une analogie que je pense qui est pas mal, que peut-être que j'utiliserai dans un article.
Mmh. On a une exclue.
Imaginez, nous sommes dans les années 70, et quelqu'un de l'industrie du jeu vidéo vous dit, écoutez, demain, les jeux vidéo ressembleront à... Et là, on vous projette une image de Fortnite. Voilà. Fortnite ou God of War Ragnarok ou GTA V. Genre, le jeu vidéo, ce sera ça. Tout le monde serait genre, ouais, génial, absolument incroyable. Et le produit qui sort l'année suivante, c'est Pong. Et là, on se dit, attendez, mais il y a un problème, là. C'est pas ce que vous nous avez vendu. Dis, bah si, ce qu'on vous a vendu, c'est que dans l'avenir, ça ressemblera à ça. Mais là, pour le moment, on est en train de bâtir pierre à pierre, et que bah, là, pour le jeu vidéo, il a fallu 50 ans pour arriver au niveau GTA V, et qu'on a commencé par un niveau Pong. Bon, là, sur le métavers, il pense quand même aller un petit peu plus vite que 50 ans, mais c'est en fait, c'est, comme disait très bien Cassim, en fait, il paye le fait d'avoir changé totalement leur identité autour du métavers, et du coup, maintenant, ils sont regardés par rapport à ça, et plus par rapport à ce que peut faire Facebook ou Instagram, qui eux-mêmes aussi ont quand même des difficultés. Enfin, faut pas non plus occulter ça. Il y a des petites difficultés, mais qui ne méritent pas forcément d'avoir moins 70% en bourse depuis le début d'année.
C'est marrant ton analogie. J'avais fait à peu près la même il y a deux ou trois semaines avec. Je crois que je parlais de jeux vidéo aussi et je parlais d'oscilloscope ou de télé, tu sais, écran plat. Et je disais, regardez, on va avoir ça. Et on monte l'oscilloscope à côté, bah, évidemment, tu peux pas.
Bah voilà, on se dit, mais quoi ?
De quoi tu nous parles ? Ouais. Non, je la trouve très bien cette analogie. Elle est parfaite. Mm. Oui, on est d'accord. Bon, en tout cas, c'est ce qui se passe pour Meta. Je veux insister un tout petit peu sur le succès insolent de l'autre côté des GAFAM, d'Apple, qui est hallucinant et dont on parle depuis des mois maintenant, qui se concrétise depuis des années. Et même quand ils n'ont plus d'iPhone à vendre, et ce n'est pas forcément le cas parce qu'ils sont dominants dans certains marchés, mais ils ont encore des marges de progression dans d'autres. Mais même quand on ne parle pas de matériel, ils ont réussi à développer les services, ils ont réussi à développer d'autres catégories de produits, les montres, les AirPods, etc.
Donc, les Mac, si je peux me permettre de parler deux secondes des Mac, les pauvres dont personne ne parle à chaque fois.
Ouais.
Y a pire que le marché du smartphone, il y a le marché du PC qui avait connu une énorme explosion pendant les confinements parce que les gens ont dû s'équiper justement pour pouvoir travailler à la maison en télétravail. Et là, on est dans le contre-coup de cette période-là. Donc, il y a eu une surproduction de machines et il y a une baisse drastique des ventes. Et d'une manière générale, les grandes marques de PC, les Asus, Dell, HP, Lenovo, sont toutes en chute de, on va dire, entre 10 et 27% pour HP. On est sur des grandes chutes au global. Hein, je parle sur le global d'année sur année, sur le dernier trimestre. Sauf, justement, Apple qui est en progrès de 7%. Parce qu'ils ont très bien réussi leur transition vers les puces Apple M1, M2. Bon, je vais pas refaire tout le truc, mais voilà, ils arrivent très bien sur ce segment-là à voir après dans les années, justement, comme ils arrivent à concevoir des machines qui tiennent dans la durée. Je ne sais pas combien de temps ils peuvent gagner cette croissance-là de transition d'Intel vers Apple Silicon, mais en tout cas, ça leur a réussi pour l'instant. Et c'est un très bon secteur.
S'ils ont une marge de progression sur les marchés pour les téléphones, sur les ordinateurs, ils ont une marge de progression encore plus importante. C'est une partie infime.
Apple aussi, là où ils sont très bons, c'est qu'ils augmentent le prix énormément de leurs produits. Donc c'est comme ça aussi que tu gagnes de la croissance. Tu peux vendre un peu plus d'iPhone, mais si tes iPhones ils sont 20% plus chers que ceux de l'année précédente, par exemple, ou les Mac, la même chose, bon bah n'empêche que ça te fait une énorme croissance sur ton chiffre d'affaires derrière.
Donc voilà pour les résultats. Et la chose à retenir également, c'est que oui, les autres ont, et dans la tech en général, ça descend, mais ça descend à des niveaux pré-pandémie. Donc c'est pas.
Ouais, alors je vérifiais pendant que tu disais ça, Patrick. Ils ont encore un peu de marge avant d'arriver au niveau 2020 pré-pandémie. Il y a encore un peu de marge, mais oui, c'est vrai que ça redescend. Et il y a plein de, enfin il y a plein de facteurs. Hein. Il y a effectivement l'effet un peu boomerang. Les gens ont arrêté le télétravail vachement moins, le marché des PC, etc. Il y a aussi la conjoncture économique plus globale, le fait que le dollar est hyper fort actuellement. Et du coup, ben, pour toutes les entreprises qui génèrent du chiffre d'affaires à l'étranger, notamment en Europe, ben, ils perdent de l'argent à cause de ça. Enfin, il y a plein d'effets, l'inflation. Enfin, il y a énormément aussi d'effets macroéconomiques qui expliquent que les résultats ne sont pas forcément brillants.
Oui, on est d'accord. Et vous savez quel autre effet macroéconomique est important pour la vie du rendez-vous tech ? Le Patreon ! Vous pourriez soutenir Patreon ! Vous pourriez soutenir le rendez-vous tech sur Patreon aujourd'hui. Et je vous confirme, les effets macroéconomiques se font sentir sur le Patreon du rendez-vous tech également. Donc si vous hésitiez, si vous avez la chance de ne pas avoir à compter les euros en fin de mois et que vous souhaitez soutenir des créateurs, n'hésitez pas à aller voir sur patreon.com/rdvtech, vous pouvez soutenir l'émission pour une somme relativement modique, si vous le souhaitez, 1 euro par mois, par épisode, 2 euros, 3 euros. Vous avez tout plein de niveaux différents de soutien et vous avez des bonus qui vous seront attribués pour compenser votre soutien, en plus, bien sûr, du plaisir, du bonheur, de l'honneur de soutenir l'émission. L'honneur étant entièrement pour moi, évidemment, de compter votre soutien. Vous aurez des bonus comme les émissions avec zéro pub, même pas cette petite promo au milieu. Vous aurez des contenus supplémentaires. Vous aurez accès à une partie super privée, cachée du Discord. Discord, d'ailleurs, que je vous encourage à aller visiter. Si vous en avez marre de l'Internet, comme je le disais dans un tweet tout à l'heure, si vous en avez marre de l'Internet, eh bien vous pourriez aller sur le Discord de la communauté. On s'y amuse énormément et c'est plein de gens super sympathiques qui parlent de tout plein de sujets. Donc bref, tout ça pour dire, vous avez le lien dans les notes de l'émission, patreon.com/rdvtech. Si vous appréciez ce qu'on fait, vous pouvez aller y jeter un petit coup d'œil. Et d'ailleurs, dans l'after show, contenu bonus, on va parler de Mastodon. Tiens, qu'est-ce que c'est que Mastodon, cette alternative à Twitter libre et open source ? Est-ce que c'est viable ? Est-ce que c'est intéressant ou pas ? On va aussi parler des super apps, le X de Elon Musk à terme, ça pourrait être une super app. Puis quelques autres petits trucs, le Patreon a en bonus l'after show qui arrive après la fin de l'émission normale. Donc si vous voulez ça, bah, vous restez après l'émission si vous êtes patriote.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Super. Et on va passer à la suite de l'actu avec le reste des sujets. Premier sujet, YouTube est pas si mauvais dans la modération, contrairement à d'autres réseaux sociaux, comme on le voyait la semaine dernière, mais il y a une nouvelle initiative qui est plutôt intéressante pour les informations médicales et la désinformation médicale. Ils ont l'intention, ils sont en train de vérifier les praticiens et leur identité, leur qualification pour mettre en avant leurs vidéos un petit peu plus que les autres et mettre un label pour confirmer que c'est une personne qui a des qualifications. C'est intéressant à mettre en parallèle d'un article du New York Times sur ce qui se passe sur TikTok, avec beaucoup de gens qui parlent de problèmes de santé mentale et psychologique sur TikTok, auxquels s'identifient certains utilisateurs et certaines utilisatrices de TikTok, qui deviennent convaincus qu'elles ont ou qu'ils ont des problèmes de ce type-là spécifiquement, et qui ensuite, même quand ils ou elles vont consulter, font plus confiance à la personne, à la personnalité, l'influenceuse ou l'influenceur sur TikTok qu'à leurs praticiens qualifiés et diplômés. Alors évidemment, c'est une partie des gens. C'est aussi, il y a des gens qui apprennent des choses sur des conditions psychologiques qu'ils ne connaissaient pas et qui les affectent peut-être. Mais c'est suffisamment problématique pour que, c'est aux États-Unis hein, qu'on a constaté ça, il y ait des professionnels de santé qui commencent à s'en inquiéter. On avait déjà parlé de certaines choses il y a quelques mois, quelques années. L'article sera dans les notes, dans la newsletter. Mais c'est intéressant de mettre les deux en parallèle. On a vraiment YouTube qui semble prendre les choses au sérieux et faire les choses très bien, et à côté TikTok où c'est encore un petit peu le Far West. Kassim, je suis sûr que tu préfères YouTube à TikTok pour tes informations vérifiées.
je suis complètement un boomer qui n'est pas sur TikTok. Je n'arrive pas, j'arrive vraiment pas. j'ai essayé plusieurs fois et à chaque fois, les vidéos... Ah non, mais genre, j'ai aucun doute en plus, mais c'est juste les vidéos autoplay et tout. Moi, ça me... Dans lesquelles je ne peux pas trop naviguer et tout, ça me... Voilà. Bref, non, mais sinon, YouTube, très bien leur vérification. Et je voulais juste, sans vouloir revenir sur Twitter, c'est vrai que c'est un des points qu'on n'a pas mentionné qui m'effrayait dans la lettre qu'avait écrit Elon Musk sur Twitter où il parlait un peu de son programme, un peu de, pour, une fois l'acquisition faite. Il mentionne un moment sur la publicité le fait de nous faire découvrir des traitements médicaux que l'on ne connaît pas et qui sont pourtant parfaits pour nous. Dans une ère un peu, après tout ce qu'on a connu sur le Covid et l'allée d'information, c'est vrai que ça sonne presque comme une menace, on va dire.
C'est même pire, c'est une lettre qu'il envoyait, une lettre ouverte aux publicitaires qui faisaient de la publicité sur Twitter. Il disait « Ah, mais je ne veux pas faire de Twitter un enfer, vous inquiétez pas, il y aura quand même de l'ordre. » Et d'ailleurs, la publicité est tellement bien quand elle peut nous permettre de, par exemple, découvrir des choses qu'on ne connaissait pas, comme des traitements médicaux, effectivement. Et là, tu dis « Mais de quoi parles-tu, Elon ?» Bon, toi, Chloé, tu es sur TikTok, évidemment. Tu connais très bien la plateforme.
Non, j'ai TikTok uniquement pour des raisons professionnelles et je ne m'y rends que quand je dois vérifier des choses. Mais par contre, je suis toujours très étonnée de la rapidité avec laquelle l'algorithme s'adapte. Sur TikTok, en fait, parce que je n'ai pas vraiment créé de compte. On peut utiliser un compte TikTok, on peut utiliser TikTok sans avoir fait de compte. Et comme je l'utilise assez peu, généralement, ça finit par rebooter au bout d'un moment. Et il suffit que je regarde genre 2-3 vidéos et c'est bon, quoi. Il a compris, c'est parti. Non, par contre, sur l'autodiagnostic, en fait, ça me faisait penser, vous savez, quand on regarde Doctissimo et qu'on est persuadé qu'on a un cancer parce que y a un truc qui va pas et qu'en fait, c'est juste qu'on a un rhume. C'est un peu la même chose, quoi. Mais c'est poussé au niveau plus santé mentale. Mais c'est je suis dépressive parce que je suis adolescent j'ai un trouble bipolaire. On est à peu près sur les mêmes dimensions qu'on a pu voir. Et je pense que pour les médecins, ça va être aussi quelque chose de gênant parce que je pense que tous les médecins ont vécu. Le volet ou le côté où des patients viennent en étant persuadés d'avoir déjà leur diagnostic, en disant non, mais je sais très bien, c'est ça que j'ai, alors qu'en fait, non, là, je pense que ça va être à peu près la même chose aussi sur la santé mentale. Donc, ça va être intéressant à observer.
C'est ce que disait une personne sur le Twitch d'ailleurs. C'est vrai que l'autodiagnostic n'est pas neuf. La différence, c'est que là, on va le recevoir de personnes avec lesquelles on a une relation beaucoup plus personnelle sur TikTok, les influenceurs, etc. Et ce qui m'a vraiment frappé dans cet article, que encore une fois, je vous invite à lire, il sera dans la newsletter, c'est les professionnels qui disent on est amené à discuter avec des adolescents qui font plus confiance à leur autodiagnostic sur TikTok qu'à nous, professionnels de santé. Et bien sûr, il y a des gens à qui ça arrive avec Doctissimo, mais ce n'est pas la même chose. Doctissimo, on fait une recherche sur la condition. Là, c'est un truc qui va vous être amené devant le visage. Et si c'est un influenceur que vous connaissez, avec qui vous avez une certaine relation, je pense que ça peut avoir plus de poids. Le fait qu'on dise « Ah mais non, le docteur, il ne sait pas de quoi il parle, je sais bien que j'ai ce trouble du comportement », c'est un peu... Évidemment, il y a des choses où ça sera justifié, mais... Bon, bref. Voilà pour moi, je veux souligner encore une fois le travail de YouTube, dont on disait il y a une semaine ou deux, qu'il faisait un bon travail justement sur la modération des publicités, des fausses publicités. Et là, on se rend compte qu'ils font ce travail sur l'information médicale. On critique beaucoup YouTube comme on critique tous les réseaux sociaux et les GAFAM. j'ai l'impression qu'ils sont sortis les doigts quand même pour essayer au moins de faire des choses que d'autres, dans lesquelles les autres mettent moins d'énergie.
Je note qu'ils ne demandent pas un abonnement payant aux praticiens qui souhaitent se faire labeller comme fiable.
On le note. Comme ça, sans plus de commentaires. La copie privée, là, on va aller un petit peu plus vite. La copie privée a été un petit peu épinglée par le rapport au gouvernement, le rapport au Parlement qui vient d'être publié hier. J'en ai lu une petite partie. Ils sont très diplomates, mais vous savez que la copie privée, qui est une taxe sur à peu près tous les appareils électroniques pour soutenir la copie privé de matériel comme les CD, vous savez, qu'on copiait sur des MP3 ou on faisait des copies sur des cassettes à l'époque, il y a longtemps. Ben, ça a évolué et c'est devenu de plus en plus important. En gros, ce que dit le rapport, c'est vous n'êtes plus tout à fait en adéquation avec les réalités de l'utilisation de ces outils numériques. Donc, il va falloir peut-être réévaluer les choses. Donc, peut-être un espoir pour que la copie privée soit ajustée, on va dire, aux usages réels, ce que ne manquons pas de combattre les ayants droit. Mais là, vu comme c'est... Enfin, je ne sais pas. Après, il faut que ça passe par l'Assemblée, etc. Mais peut-être que ça va être un petit peu... Tu y crois, toi, Chloé, que ça soit revu ou ça va être...
cette histoire, c'est un serpent de mer, hein. Et avec des intérêts très, très différents entre, d'un côté, les intérêts plus de la culture, enfin, de l'industrie de la culture, et de l'autre côté, c'est notamment toute la... Pour la copie privée, c'est aussi toute la question des entreprises qui refont, qui réparent les produits. Reconditionner, merci. Le reconditionnement, et voilà, c'est la question, c'est est-ce que tu taxes deux fois le même produit, je pense qu'on n'est pas encore sorti des ronces sur ce sujet-là, mais qui est vraiment passionnant, hein, parce que bon, les deux parties ont des arguments qui sont intéressants, donc, mais compliqué, donc il faudra que quelqu'un tranche. Ce ne sera pas nous.
J'allais reparler du même exemple de cette question de la copie privée sur les produits reconditionnés, pour justement dire que, a priori, à gouvernement, on n'a pas changé vraiment entre les deux mandats de Macron, a priori, on n'a pas trop changé de direction du gouvernement. Et justement, pour l'instant, l'arbitrage s'est toujours fait plutôt vers le monde de la culture, à maintenir la copie privée et justement à l'appliquer sur les produits reconditionnés. Donc, malheureusement, je n'ai pas l'impression, pour l'instant, je ne vois pas de... Après, peut-être que justement, le poids supplémentaire mis sur l'environnement va peut-être faire changer les choses, mais pour l'instant...
Disons que le rapport est vraiment un peu à charge, quoi. Et c'est un rapport qui a été commandé par le gouvernement. J'imagine que si tu ne fais rien suite à un rapport comme ça, on peut quand même le pointer du... À moins que personne n'ait envie de le pointer du doigt.
Tu sais, les rapports qui finissent
dans des tiroirs. Ouais.
On parle d'un gouvernement qui s'est condamné plusieurs fois pour une action et pour... par des institutions aussi tout à fait officielles et bref.
Oui, je pense que c'est pas tout à fait la même chose, mais ok. Disons que le rapport finira peut-être dans un tiroir, c'est possible. L'Union européenne va sans doute lancer une inquisition plus concrète dans le rachat de Microsoft, d'Activision, Blizzard. On en parle de temps en temps, surtout dans le rendez-vous jeu, mais c'est une énorme acquisition. On parlait de 44 milliards de dollars pour Twitter. Là, c'est 76 milliards. C'est ça ? Je dis pas de bêtises. 67 ? 76 ? 67.
En fait, le truc, c'est que c'est en train de changer selon par rapport entre l'annonce qui était faite en janvier et maintenant. On n'est plus vraiment dans les mêmes rapports de dollars et d'inflation. Donc,
c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent et c'est intéressant parce que l'Union européenne qui se plaint justement, dont on dit qu'elle n'a pas assez de pouvoir sur les GAFAM, pourrait peut-être avoir une motivation à dire comment les choses devraient se passer dans cette acquisition. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, on va en parler dans le rendez-vous jeu, évidemment. On parlait de deal entre les stocks, les vendeurs de photos de stock, comment on dit en français ?
Les banques d'images.
Les banques d'images, merci. Eh bien, Shutterstock, qui est l'une de ses plus grosses banques d'images, a passé un deal avec OpenAI, avec DALL-E 2, pour, d'une part, vendre des photos générées par, enfin des images générées par DALL-E 2 dans ces banques d'images. Alors, on ne sait pas s'il va y avoir la possibilité de les modifier ou de les customiser. Et d'un autre côté, de compenser financièrement les artistes dont les images sont utilisées pour développer l'algorithme. Et bien sûr, les artistes qui ont leurs images sur Shutterstock. Donc Shutterstock est une source pour OpenAI, pour DALL-E 2, et les créateurs dont les photos sont utilisées pour alimenter l'algorithme vont être compensés. Alors, combien ça va être ? J'en sais rien, j'imagine que ça ne se comptera pas par unité en millions de dollars non plus. Mais c'est quand même une concrétisation de tout ce dont on parle. Généralement, sur ce genre de choses, je vous dirais, c'est tout ce dont on parle depuis des années. Et là, comme on l'a dit à plusieurs reprises, c'est allé tellement vite que ça a été une affaire de mois. Au moment où ces nouveaux algorithmes, ces nouveaux générateurs d'images sont apparus, en quelques mois, ça y est, on a commencé à en voir les applications commerciales très concrètes. Et là, c'est encore un exemple, mais un exemple frappant, parce que c'est ce qu'on disait il y a trois mois. Ah, mais dans le futur, ça servira peut-être aux banques d'images. Alors là, ça sera implémenté en 2023, mais le deal est passé, DALL-E et Shutterstock, et je pense que ce n'est pas les derniers. Shutterstock a utilisé ce genre de choses. Quoi d'autre ? Un article intéressant, alors qu'on ne va pas détailler, mais on parle souvent de l'influence de la Chine en Afrique. Il y a un article hyper intéressant sur Rest of World, qui est une publication que je vous recommande, sur la manière dont les géants de la tech chinoise, enfin chinois, investissent l'Amérique du Sud. C'est vraiment, vraiment fascinant. L'Amérique latine est vraiment une terre de développement pour des géants comme Didi, Huawei, TikTok, etc. Et ce qui est marrant, c'est que les employés de ces sociétés chinoises vantent les mérites des conditions de travail, anonymement, hein, c'est pas qu'ils disent « Ah, oh, c'est super pour nos overlords chinois », mais des conditions de travail par rapport aux sociétés occidentales. Donc voilà, juste pour mentionner ce petit élément qui m'a bien fait rire. Je crois que les sociétés chinoises voient, alors ça c'est moi qui spécule, mais voient ces marchés comme des vrais marchés viables à développer, alors que peut-être que les occidentaux, c'est un marché moins intéressant qu'on fait quand on a fait tout le reste, quoi. Et quoi d'autre ? Alors, on dit souvent du mal des
blockchain.
Cryptos. De quoi ?
De la blockchain,
De la blockchain, oui. De la blockchain et des cryptos. Alors, c'est vrai que j'avais un article, je ne sais plus où je l'ai mis, mais qui montrait que les échanges de NFT ont chuté. Les échanges sur les plateformes de crypto ont chuté de 60 à 90% sur les différentes plateformes. L'une d'entre elles, c'est crypto.com, vous savez, qui avait acheté ce stade légendaire qui avait rebrandé le. Oui, ils ont leur nom dessus.
Ils ont le naming. Comme c'est on ça. Dit, en bon français.
À Los Angeles. Et la pub avec Matt Damon. Vous savez, The Brave Ones are the ones who take risks. Risks, je vais y arriver. 90% de volume en moins. Mais, alors on dit ça souvent, mais Google Cloud, des gens qui ne sont quand même pas les derniers pour les opérations sérieuses, ils ont annoncé le Blockchain Node Engine qui va aider les développeurs à gérer des produits basés sur la blockchain dans le cloud Google. Alors, ils commencent avec Ethereum, ce n'est pas surprenant, mais donc il y a quand même il doit y avoir des applications parce que Google, il ne ferait pas ça sans avoir quelque chose derrière. Apple travaillerait sur un iPad 16 pouces, qui pourrait arriver en 2023, vers la fin de l'année. Et Samsung a créé un mode intéressant pour ses téléphones quand on les envoie en réparation, le mode maintenance, qui isole complètement vos données et qui crée un profil utilisateur temporaire auquel a accès le réparateur si besoin. Et donc, vous le mettez en mode maintenance. C'est comme si ça n'efface pas vos données. Hein, c'est juste que ça les isole. Et je trouve que c'est plutôt pas mal parce qu'on a toujours peur. On ne sait pas où vont aller nos données quand on donne notre téléphone en réparation, quand le réparateur a besoin d'avoir accès au téléphone. Et là, bah, c'est plutôt protégé. Donc, voilà, je vous laisse. Si vous avez des choses à dire, on va oublier Spotify qui se plaint encore que Apple l'empêche de vendre ses audiobooks comme il le voudrait, voilà, monopole, on sait bien. Et Meta se plaint de ça aussi, puisque Apple veut faire payer la commission sur la vente de boosts pour les réseaux sociaux. Enfin, Apple a bien besoin de continuer à croître un petit peu, hein. Ils ont besoin de ramener de l'argent, les pauvres.
Oui, il faut préserver ses marges. Hein, c'est, donc, ça, c'est ça. On va chercher des commissions. Non, là, dans le lot de news, je dirais juste voilà, de prêter vraiment attention à l'enquête approfondie de la Commission européenne sur Microsoft Activision. Donc là, a priori, c'est ça qui va être annoncé. Donc l'enquête va prendre plusieurs mois. Mais je trouve que c'est un dossier hyper intéressant parce qu'on pensait que ça allait passer comme une lettre à la poste, ce rachat d'Activision. Et en fait, non. C'est un peu plus complexe que ça. Et surtout, ce qu'on voit dans ce qui est déjà pu sortir à droite à gauche, parce que bon, il y a la procédure européenne, il y a une procédure au Royaume-Uni, il y a une procédure aux États-Unis, il y a une procédure, je crois, dans une quinzaine de pays au total. Et que, en fait, c'est surtout Sony qui est beaucoup à la manœuvre ouais. derrière.
Ils sont très forts.
Voilà. Hein. Ils sont très très forts, ils lobbyisent énormément pour faire capoter ce rachat. Donc franchement, je vous conseille de vous pencher sur les articles sur le sujet, c'est extrêmement intéressant.
Dans le rendez-vous jeu d'ailleurs, on en a beaucoup parlé, on va continuer à en parler. C'est, pour vous résumer en 2 minutes, ce qui est très très fort, c'est que Sony, qui est de très loin l'acteur dominant dans ce marché, enfin on pourrait compter Nintendo aussi, mais... ils se font passer comme le petit agressé par Microsoft, qui jouit de cette image de géant de la tech, mais qui en réalité dans le jeu vidéo est quand même troisième parmi les constructeurs et troisième de loin. Et Sony a réussi à faire passer Microsoft comme une sorte d'agresseur qui englobe tout le marché, alors que même avec tous ces rachats, ils sont en réalité largement troisième. Et donc, peut-être que les enquêtes détermineront qu'effectivement, même avec tous ces rachats, Microsoft n'est pas vraiment un danger pour la compétition. Mais c'est l'image qu'ils ont maintenant. Et comme tu le dis, c'est Sony qui, très habilement, s'est fait passer pour une sorte de victime dans l'histoire, complètement en danger, alors qu'ils ont des résultats, encore une fois, sur le marché spécifique des jeux vidéo, qui sont assez incroyables.
Moi, ce qui me fait toujours sourire aussi sur cette affaire, c'est que du coup, bah, Microsoft a démontré que, bah, en fait, non, il ne présente pas un danger. Et là, ses dernières communications sur le sujet, c'est de dire, non, mais vous savez, le Game Pass, ça ne fonctionne pas. Le cloud gaming, ça ne fonctionnera pas avant hyper longtemps. Enfin, vous savez, les gens vont rester fidèles à la console pendant encore des années et des années. Enfin, ouais. Voilà, en fait,
C'est encore pire quand tu lis les documents internes, les documents qu'ils envoient, par exemple. Notamment, en fait, c'est la procédure britannique qui est la plus en avance et sur laquelle on a le plus de documents. Quand tu lis leurs documents, t'as les déclarations de Microsoft où ils expliquent que non, mais la PlayStation 5, elle est plus puissante que notre console, elle se vend beaucoup mieux, il y a le parc installé, il est 3 fois plus important, parce qu'ils ont des meilleurs jeux, leur sélection de jeux, elle est bien de bien meilleure qualité que les nôtres.
Mais le pire, c'est que c'est vrai tout ça. C'est ça qui est terrible, c'est qu'ils mentent pas. C'est que c'est complètement vrai tout ce qu'ils disent. Mais oui, ils le présentent pas comme ça généralement, ouais.
Oui, du coup, c'est marrant, c'est une communication inversée par rapport à ce que nous, on a l'habitude d'entendre dans les médias, où forcément, les entreprises se mettent en valeur en disant « mais non, mais tout va bien ». Et là, voilà, dans cette procédure, ils sont obligés de dire « non, en fait, non, ça va pas bien du tout
». Mais alors, pour revenir sur un élément plus sérieux sur ce dossier, il y a beaucoup de procédures qui sont lancées un peu partout dans le monde, dans plein de pays. Et en fait, c'est octobre et novembre va vraiment être un point de jonction parce qu'il y a beaucoup de deadlines en fait en octobre-novembre là sur les procédures qui ont été lancées. Après, pour rappel, ils se sont laissés officiellement jusqu'à juin 2023, la fin de leur année fiscale, pour clôturer leur achat. Donc c'est pas, enfin, je pense quand même qu'ils avaient un peu, je pense pas qu'ils avaient anticipé à ce point-là d'avoir autant de blocages en route, mais je pense pas non plus que ce soit ultra surprenant même pour eux. Soit le cas, et puis ça veut pas dire que le rachat va forcément être bloqué.
Ce qu'on appelle, c'est mettre en place des remèdes,
exactement. Ouais, des garanties. Enfin, ils vont devoir faire des garanties officielles sur certains
ils
points,
ont commencé,
comme ils sont un peu en train de le faire.
Ils ont commencé à en parler beaucoup plus clairement des choses qu'ils insinuaient vaguement et en se laissant des portes de sortie. L'un des points d'achoppement important, c'est un jeu dont vous avez certainement entendu parler, même si vous n'êtes pas fan de jeux vidéo, c'est Call of Duty, qui est le jeu le plus vendu avec FIFA au monde chaque année.
Si je peux me permettre.
Oui.
Il y a eu un communiqué de presse pendant l'enregistrement de l'émission, donc si tu veux donner un exemple, il y a Modern Warfare 2 qui vient d'annoncer qu'ils avaient fait 800 millions de dollars de sell-through en trois jours, ce qui en fait la plus grande ouverture pour Call of Duty, de l'histoire de Call of Duty. Donc 800 millions de dollars en 3 jours.
Call of Duty fait partie des jeux Activision Blizzard que rachèterait Microsoft. Et le problème, c'est que c'est un jeu tellement important dans l'industrie que Sony dit « Ah, mais vous vous rendez compte, si Microsoft décide de ne plus éditer Call of Duty sur notre plateforme, tout à coup, c'est le Titanic, on ne peut plus survivre, comment peut-on faire sans Call of Duty ? Rendez-vous compte, un jeu tellement important. » Ce qui, bon, ils font sonner les violons là aussi. Et de l'autre côté, Microsoft a commencé à dire, par la voix de Phil Spencer, le président de Xbox, a commencé à dire non, non, mais Call of Duty sera pour toujours sur PlayStation, tant qu'il y aura une PlayStation.
Oui, ça fait presque...
Oui, tant qu'il y aura
ça fait un peu menace. Hein.
Ouais.
C'est un peu menace. On continuera à proposer Call of Duty sur PlayStation tant qu'il y a une PlayStation.
Non, mais ce qu'il veut dire, c'est que tant que PlayStation
existe. Oui, je sais. Oui, oui.
Et effectivement, je pense que c'est vers ce genre de choses qu'on va arriver. C'est des, quand on dit des remèdes, c'est le terme technique qu'on utilise, c'est-à-dire des garanties que telle et telle chose ne se produira pas ou telle et telle chose continuera. Et moi, je continue à penser, sans être un spécialiste de la loi, que le rachat va se faire avec ces conditions et que du coup ça passera.
On est bien parti pour. Hein. Ouais. Ça va être rachat autorisé, mais à condition que, et je pense que la condition que, ça va être qu'il n'y ait pas d'exclus. Ou que ce soit des exclus pour certains jeux limités à certains jeux les plus petits et que les grosses licences acquis restent multiplateformes.
Et puis il y aura des.
Dernier comme ça.
Et il y aura des questions sur le Game Pass, évidemment, et la question du streaming, qui est la nouvelle plateforme, finalement, encore plus que Xbox, enfin, la plateforme d'avenir de Microsoft. Là aussi, il risque d'y avoir des conditions, mais on verra ça à terme. Merci, Chloé et Kassim, de votre présence et de m'avoir aidé à dépatouiller un petit peu, en particulier ce dossier sur Elon Musk et Twitter, qui nécessitait bien une bonne heure de discussion. J'espère que vous aurez une vision un petit peu plus claire de toutes ces questions, maintenant qu'on vous a imposé nos discussions sur le sujet. On continuera certainement à en discuter dans les semaines et les mois à venir, mais pour le moment est venue l'heure de nous séparer. Je voudrais que vous nous disiez tous les deux où on peut vous retrouver, où les auditeurs peuvent vous retrouver s'ils veulent un petit peu plus de vos aventures. Chloé, commençons par toi. Où es-tu sur Internet ?
Sur Internet, plusieurs endroits. Déjà, le figaro.fr, rubrique médias et technologies, où vous retrouverez tous mes articles. Et sinon, sur mon compte Twitter, @w_chloé, qui est encore certifié. Pour combien de temps encore ? On ne sait pas. mais voilà, vous pouvez me retrouver aussi là-bas.
Et un autre exemple de l'importance de Twitter, c'est que tout le monde, quand vous leur demandez dans la sphère publique où on les retrouve sur Internet, les gens donnent leur compte Twitter. Plus rarement leur compte Instagram, assez rarement leur compte Facebook, mais généralement c'est le compte Twitter. Donc voilà encore un autre exemple. J'ai demandé à me faire certifier 2 ou 3 fois, hein, ça jamais... Ils veulent pas. Les podcasts, on connaît pas. Quand on est journaliste, oui, mais les podcasteurs, voilà, on muselle la presse indépendante. Quand Elon Musk aura mis en place son truc, bah au moins tout le monde sera sur un pied d'égalité. D'ailleurs, il a répondu à Stephen King, merci la chatroom, il a répondu, oui, mais il faut bien qu'on paye les factures. Est-ce que tu voudrais, qu'est-ce que tu penserais de 8 dollars plutôt ? On parlait du bouton random avec Kassim. Alors, j'ai dit 20 dollars. Non, mais attends, tu te plains ? Ok, 8 dollars. Ça te va, 8 dollars, c'est bon ? Il y aura peut-être des différents niveaux de paiement, quoi. Bon. Quoi d'autre ? Kassim ? Kassim, où es-tu ?
On peut m'en trouver sur frandroid.com où j'écris mes articles. On a aussi une chaîne Twitch et une chaîne YouTube. Et on peut me retrouver sur LinkedIn, @KassimKitfi, sur LinkedIn, linkedin.com, voilà.
LinkedIn.com, Kassim Ketfi. C'est juste pour alternative à Twitter.
C'était juste pour pour pas donner le compte Twitter. Non, mais c'est notre Kassim sur Twitter, évidemment.
Et voilà.
Et je suis certifié.
Et tu es certifié aussi, mais je suis le seul au monde à ne pas être certifié. que Kylon arrive et nous change un petit peu tout ça, bon sang.
C'est beaucoup plus simple quand tu es en rédaction de te faire certifier. Parce que c'est une, en fait, c'est une procédure collective.
Oui. Scandaleuse. Voilà. Scandaleuse, voilà, on muselle les petits au profit des puissants, des ayants. Pour ma part, vous pouvez tout retrouver, bon, moi j'ai pas besoin de Twitter, c'est notepatrick.com où vous trouverez des liens vers mon compte Twitter et la communauté sur Discord. Venez sur Discord, franchement, on s'amuse bien. Si vous êtes fatigué de Twitter et de la négativité, de la toxicité qui risque d'aller en s'aggravant, venez voir dans les petites communautés sympathiques comme celle des podcasts. Le lien est aussi dans les notes de l'émission et sur notepatrick.com. Et puis, vous pouvez aussi soutenir l'émission sur patreon.com/rdvtech. Elon Musk n'a pas encore prévu de racheter Patreon. Peut-être que ça arrivera un jour à terme. Il y a un autre sujet dont on n'a pas parlé, que je voulais évoquer un tout petit peu, c'est pas la première fois qu'un riche milliardaire rachète un média. D'ailleurs, Il y a un très beau plan du monde sur les médias français qui possèdent quoi. Bon,
mais il y a un truc
le monde diplomatique.
Ouais, dans le diplôme, ce qui est intéressant, c'est que les milliardaires qui ont des médias, il y en a plein, mais sauf qu'ils ne les détiennent pas directement. Ce n'est pas eux en personne qui les détiennent, généralement. Généralement, c'est leur entreprise, c'est leur groupe qui les détiennent.
Et j'irais même plus loin. Une des choses qui me frappe dans cette analogie, c'est que dans les médias, il y a généralement une rédaction, alors qui peut être influencée par le propriétaire, hein, bien sûr, mais il y a généralement une rédaction qui, en plus de la société, fait un petit peu tampon entre le public et la production de la rédaction. Là, sur Twitter, par le biais de l'algorithme, le possesseur du média va influencer ce qu'on y voit directement, plus que directement. Enfin, il va décider ce qu'on y voit. Et en plus de ça, le média est mondial et a l'importance qu'on décrivait, etc. Mais c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser aussi. Finalement, il y a les milliardaires qui se rachètent leur Washington Post comme le chauve d'Amazon.
Jeff Bezos,
voilà, c'est pas la première fois, quoi. Mais c'est là non plus pas tout à fait la même chose. Bon, bah décidément, on n'a pas fini de parler de tout ça. On vous remercie en tout cas de nous avoir écoutés et on se donne rendez-vous pour la suite de ces formidables aventures dans une semaine sur le Rendez-vous Tech. Si vous voulez un petit peu plus de discussions vidéoludiques, vous pouvez aller sur le Rendez-vous Jeu. C'est tous les jeudis en live sur Twitch. Et c'est un petit peu plus tranquille quand même. La prochaine fois, oui, puis... Chloé, on se fait un Rendez-vous Jeu plutôt qu'un Rendez-vous Tech. La prochaine fois que tu viens, ça sera moins stressant.
Et si, sans vouloir te faire de la pub pour t'aider à faire de la pub pour tes trucs, un élément qu'on n'a pas du tout mentionné dans nos discussions, c'est Discord comme alternative. Parce qu'il y a eu la question qui s'est posée un peu des alternatives à Twitter, sans vouloir dire que c'est une alternative, évidemment.
Oui,
mais... tout le monde parle de Mastodon, mais dans les alternatives aux grands réseaux sociaux, il y a Discord dont on parle souvent assez peu, finalement, alors que ça permet de se créer des sphères, justement, où on a son propre contrôle sur la modération. Et je dis pas ça parce que je suis modérateur sur Discord.
Sur le Discord de notre Patrick.
Exactement. Mais voilà, c'était pour faire de la pub aussi pour le... Enfin, même, du coup, pour le Discord où on parle des sujets tech et jeux vidéo aussi, justement. Et pas que.
Non, mais enfin, plein de sujets. T'as complètement raison. Le Discord est devenu une vraie alternative de communauté aux grands réseaux sociaux globaux. Et c'est une alternative qui est beaucoup plus... de taille beaucoup plus restreinte, quoi. Il y a énormément de Discord différents qui sont comme des sortes de petits forums avec quelques dizaines, quelques centaines, quelques milliers d'utilisateurs, parfois un petit peu plus pour les gros Discord, mais c'est devenu vraiment des alternatives qui sont tout à fait viables et qui sont, on est moins exposé aux torrents des ouragans du monde entier, quoi. On est un petit peu plus dans notre coin et ça, c'est assez louable. Voilà. Venez sur Discord, on continuera la conversation. On vous fait de grosses bises à tous et à toutes et on se donne rendez-vous dans une semaine. Ciao, ciao.